Bienvenue dans La Colle. Vous êtes curieux? Vous avez soif de comprendre le monde qui vous entoure? Alors, vous êtes au bon endroit. Si comme moi, vous pensez qu'on n'a jamais fini d'apprendre, La Colle est faite pour vous. Sans se prendre au sérieux, je vous propose à chaque épisode de partir ensemble à la découverte de nouveaux horizons, d'idées et de profils inspirants. Je suis Pierre Barraud, j'ai créé, édité, produit ce podcast. Je suis également directeur général du campus Orléans de l'ISC Paris, école de management, membre de la conférence des grandes écoles. Mon mantra, vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Je suis preneur de tous vos commentaires, suggestions, remarques. Ils sont tous les bienvenus. Pour me contacter, pierre@lacolle.fr. Et si vous aimez La Colle, partagez-la avec tous vos amis. Diffusons le savoir. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Colle. Je le dis à chaque fois quasiment un épisode un peu particulier. Bon, là, il se trouve que on va combiner deux trucs qui me passionnent dans la vie. Un, l'éducation, et deux, l'informatique, le code, tout ce qui est tout le côté un peu geek. Et pour ça, j'ai le plaisir d'avoir en invité Julien Barbier. Salut Julien.
Bonjour Pierre.
Alors, vous ne le connaissez peut-être pas. Eh ben, vous devriez, parce que Julien, c'est le CEO and co-founder of Holberton School. On va revenir là-dessus, mais ça fait partie aussi de ces écoles nouvelle génération, voilà, avec un vrai esprit différent, des logiques pédagogiques différentes sur des sujets qui sont aujourd'hui hyper porteurs. Donc voilà, tout ça va être hyper intéressant. En tout cas, je l'espère. Et mais avant ça, Julien, est-ce que tu veux bien peut-être déjà te présenter, nous dire peu ou prou ce qu'est Holberton, puis après voir d'où tu viens exactement.
Oui, avec plaisir, Pierre. Donc je suis le CEO et cofondateur de Holberton, que nous avons fondé avec deux cofondateurs en 2015 dans la Silicon Valley.
D'accord.
Et qui a pour but de créer des outils et des méthodes pédagogiques pour que la plupart des gens puissent accéder à l'informatique et à des métiers qui sont les métiers du futur dont tout le monde a besoin.
D'accord. Ça te fait chier si je te dis que c'est un 42 likes ou pas?
Non, ça me fait pas chier parce que j'adore 42, je trouve que c'est une super initiative.
Ouais.
On est un tout petit peu différent dans le sens où 42 c'est une école et eux leur but c'est d'avoir plein d'étudiants pour leurs écoles.
Ouais.
Nous on est une société qui crée les outils pour que d'autres écoles, comme peut-être 42, puissent les utiliser pour avoir un impact un peu plus grand et un peu plus profond sur tout ce qui est pédagogie des nouvelles technologies.
Pour petit disclaimer, hein, d'ailleurs, j'ai parlé avec Holberton justement sur est-ce qu'on ferait pas des trucs avec l'ISC, etc. Donc voilà, comme ça tout le monde le sait, tout le monde est au courant parce que justement. Vous avez monté une vraie machine de guerre sur ce truc-là.
Ah, je sais pas si on appelait une machine de guerre, mais plutôt une machine de future paix.
Mais c'est joli, t'as raison. Non, mais d'un point de vue business, je veux dire, c'est hyper intéressant. Vous avez un business model qui est intéressant.
Tout à fait. Donc nous, on a commencé donc on a créé la société en 2015. On a levé un petit peu d'argent pour pouvoir faire ce qu'on voulait faire, qui était donc de créer des outils pour avoir une éducation qui était un accessible à tout le monde, deux qui pouvait scaler, et on pourra reparler de qu'est-ce que ça veut dire un peu plus tard si tu veux, et trois, qu'ils soient de niveau tel que les gens qui finissent Harvard ou Stanford en computer science aux États-Unis. Et pour ce faire, donc on a imaginé cette nouvelle éducation, on a commencé à créer des outils. Évidemment, quand tu veux faire ça, personne va prendre tes outils, sauf si tu l'as déjà prouvé avant. Donc ce qu'on a commencé à faire, c'est créer une école nous-mêmes, avec nos propres outils.
Faire le proof of concept.
Exactement. Donc on a commencé ça en janvier 2016 et on a créé un programme à l'époque en 2 ans qui est toujours maintenant en fait le programme Holberton School qui est 9 mois, donc la première année de fondamentaux d'informatique, donc tout ce qui est les fondamentaux comme tout computer science, ouais, à tous les niveaux de computer science qui sont nécessaires pour comprendre vraiment qu'est-ce que c'est un système dans sa globalité. Donc, des trucs un peu chiants, entre guillemets, comme l'algorithmie avancée, on fait beaucoup de data structure, on fait des langages de programmation qui sont, entre guillemets, has-been, bien que maintenant, comme le C ou l'assembleur, qui sont en fait maintenant un petit peu plus utilisés qu'avant avec tout ce qui est embedded system. On a des gens qui travaillent chez Tesla, c'est du C, du C++, ouais, etc. Mais sans bibliothèque ou sans technologie de pointe, parce que ces technologies de pointe, en fait, elles changent tout le temps. Et la deuxième année, c'est l'année de spécialisation. Une fois qu'on a bien compris les fondamentaux, d'accord, et qu'on a une certaine façon de penser, on va étudier la spécialisation de son choix. Donc, machine learning, AR/VR, algorithmie poussée, blockchain, etc. Et web, évidemment.
VR, virtual reality, hein, pour ceux qui sont pas anglophones.
Tout à fait. La clé, la spécialisation de fait d'Holberton et de l'éducation d'Holberton, c'est le apprendre à apprendre. Donc, on a créé une éducation qui est basée tout autour de ça. Et le computer science est un petit peu un prétexte pour appliquer cette façon d'apprendre.
Ouais.
Pourquoi c'est important aujourd'hui d'apprendre à apprendre ? Ça a toujours été important d'apprendre à apprendre et de savoir apprendre de façon correcte et rapide. Mais aujourd'hui, en fait, on rentre dans ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle. Qu'est-ce que c'est ? C'est en gros la convergence de tous les outils et de toutes les technologies auxquelles on peut penser, comme la blockchain, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée ou virtuelle, etc., qui font qu'en fait notre monde s'accélère, que ce soit le monde du travail ou notre vie perso. Aujourd'hui, la tech est partout. Et en fait, comme la tech est partout, c'est elle qui amène et qui impose son rythme à l'économie et au monde dans lequel on vit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout change très 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 vite. Et concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on va apprendre à l'école pour en faire son métier, tout peut changer avant qu'on finisse l'école.
Okay.
Et aujourd'hui, bon, la computer science est à la mode, c'est génial. Les fondamentaux vont jamais changer, et c'est pour ça que en fait on travaille toute une année sur les fondamentaux et sur cette culture de apprendre à apprendre et de résoudre des problèmes. Et ensuite, on va plus proche du marché actuel avec la deuxième année. Mais ces spécialisations là, ou les nouvelles technologies qui sortent, ou le dernier framework JavaScript à la mode, dans 6 mois, dans 1 an, il est plus du tout à la mode, il est plus du tout utilisé. Donc, ce qui se passe, en gros, si on fait un step back, on se rend compte qu'en fait, personne ne sait quels vont être les métiers de demain. Personne. Par contre, on sait que quelque part, il y aura de plus en plus de tech. Donc voilà. Donc, c'est apprendre à apprendre, c'est hyper important parce que les gens qui sont à l'école aujourd'hui vont devoir apprendre et réapprendre leur métier ou de nouveaux métiers constamment pendant leur carrière, ce qui n'était pas forcément le cas de nos parents ou de nos arrières.
Ce qui fait que dans les gens que vous accompagnez ou que vous avez peut-être accompagné au tout début, justement sur le proof of concept aux États-Unis, il y avait des gens en reconversion autant que des gens qui sortaient, je sais pas, de l'équivalent du bac.
Exactement. Donc on a toujours des gens qui viennent de milieux complètement différents, avec des niveaux complètement différents, avec des âges complètement différents. Donc on avait des gens qui sortaient du lycée. Et puis on avait des gens qui étaient en complète reconversion. Et aujourd'hui, on a sur Holberton School, il faut être majeur pour pouvoir y aller. Mais une fois on a des gens entre 18 et je crois que la personne la moins jeune qu'on avait devait être autour des 60 ans.
D'accord. Et là on voit le mec qui sait vendre parce que c'est pas le plus vieux, c'est la moins jeune.
Non, mais ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, les gens ont beaucoup d'a priori sur plein de choses. Quand on est jeune, on apprend plus vite que quand on est vieux.
Ouais.
En fait, quelque part, c'est vrai, mais il y a une grande part de motivation, d'intérêt, de discipline qui joue et que certaines personnes qui sont un peu plus âgées que 18 ans ont beaucoup plus que des jeunes que des gens plus jeunes.
Calme.
Et c'est intéressant parce qu'au final, on arrive au même résultat à partir du moment où les gens sont assez motivés pour travailler assez dur. Holberton, je dis assez dur parce que Holberton, c'est pas facile. C'est pas quelque chose où on y va comme à l'université, on travaille 3 heures par-ci, on révise un tout petit peu avant l'examen et c'est fini.
Donc là, tu viens de me fâcher avec tous les universitaires qui écoutent la colle. Non, l'université, c'est pas facile. Non, c'est pas vrai.
Non, mais alors moi j'ai fait l'université, je dis pas que c'est facile.
Ouais.
Mais ce que je peux te dire, c'est que Holberton, c'est au minimum 3 fois plus dur que l'université.
D'accord. Ah, pourquoi, à ton avis?
Alors, pourquoi? Parce que, en fait, le programme, il est hyper intensif, parce que, bon, on essaie quand même de former des gens sans background, donc on n'a aucun prérequis en informatique, pour aller travailler sur des jobs d'ingénieurs de gens qui sortent de Stanford, après 4 ans d'études.
C'est chaud.
D'accord? Donc, déjà, quelque part, il y a une compression de tout ce savoir qui est fait sur 2 ans.
Ouais.
Et deux, c'est dû, il y a un niveau supplémentaire de challenge, qui est cette nouvelle éducation que nous, on apporte, qui est basée sur le projet et qui est basée tout autour de apprendre à apprendre, comme je l'ai dit.
Ouais.
C'est-à-dire que nous, nos projets, c'est pas, il y a un cours, tu apprends par cœur et puis après, hop, c'est bon, t'as la réponse, puisque t'as appris la réponse par cœur. Non, nous, nos projets, c'est, voilà quelques liens sur Internet pour aller lire, en fait, ce dont tu vas avoir besoin pour résoudre ce problème. Mm-hmm. Mais voilà le problème. Tu te débrouilles, il faut que ce soit fini avant la fin de la journée.
Okay.
D'accord?
Ouais.
Et au début, en fait, on donne dans ces liens 99% du savoir nécessaire pour que la personne puisse résoudre le problème.
Mmh.
Et puis ensuite 80, et ensuite 70, 60, 50, et puis à la fin, plus rien. À la fin, t'as juste un lien vers Google.
Vas-y, démerde-toi.
D'accord? Ouais. Et donc, exactement. Et donc, le but, en fait, c'est que nos étudiants aient le moins besoin possible de nous.
Ouais, puis d'en faire des gens immédiatement opérationnels. C'est aussi bien
exactement.
Que ça.
Exactement. Exactement, parce que la problématique de l'éducation classique, c'est que tu apprends par cœur la réponse et puis après on te donne le problème qui est l'examen et puis tu le recraches. Donc j'exagère un petit peu, hein, c'est pas exactement comme ça, mais globalement c'est ça. Mais quand tu arrives sur le monde du travail, c'est tiens voilà le problème, mais t'as pas appris la solution avant, tu sais pas comment ça marche. Donc il faut que tu apprennes à aller chercher l'information toi-même. Souvent il y a 2 choses en général. 1, l'internet, et 2, les gens avec qui tu travailles. Et c'est pour ça que cet environnement de peer learning est aussi hyper important, parce que les gens apprennent, dans le apprendre à apprendre, il y a aussi apprendre à savoir poser les questions et apprendre à aller chercher le savoir partout où il est,
ouais.
Que ce soit dans les livres, sur internet, avec des gens. Et ce savoir-là, qui est partagé soit sur internet, soit via la parole avec des gens, il n'est pas forcément complet, il n'est pas forcément juste non plus. Donc, il faut aussi apprendre à filtrer ces informations.
Oui, oui.
C'est pour ça que dans certains de nos projets, on met des liens vers des ressources qui ne sont pas complètes, ou même des liens vers des ressources qui sont fausses.
C'est vicieux.
Alors, on peut trouver ça vicieux, mais en fait, non, on prépare les gens à la réalité du terrain.
Avoir un esprit critique, tout simplement, sur ce qu'ils trouvent, quoi, ouais.
Exactement. Donc en fait, tout l'environnement et de tous nos projets et de toute notre éducation est vraiment basé sur ça. On va développer cet esprit critique et cet esprit d'ingénieur. Et on va passer de « Ah mince, j'ai un problème, c'est chiant » à « C'est génial, j'ai un nouveau problème, allez c'est parti. »
Ouais, je comprends.
Et en fait, à partir du moment où tu as ce mindset-là, plus rien ne peut t'arrêter. Que ce soit en informatique ou ailleurs d'ailleurs,
oui, je suis d'accord.
Dans ta vie ou dans ta vie professionnelle ou personnelle, à partir du moment où tu es habitué à être constamment en dehors de ta zone de confort, eh ben plus rien ne peut t'arrêter. Et c'est le but de l'éducation Holberton à la base, le cœur de cette éducation.
Alors ça marche si t'as des étudiants engagés volontaires. Tu vois, je prends juste mon exemple.
Tout à fait.
Moi, à 45 ans, je me suis mis à apprendre le Swift parce que ça me faisait marrer et parce que j'avais envie de développer une app. Ok, très bien. Mais j'avais vraiment envie, ce qui fait que entre 2h et 3h du matin, j'étais en train de coder. Comment tu t'assures que les gens qui vont rentrer dans ton programme, ils ont cet engagement-là et ils sont alors bien câblés, je sais pas, ou en tout cas, ils ont quelque chose.
Alors, moi, je vais te répondre pour le réseau Holberton School, mais pas pour notre réseau de partenaires, puisque chaque partenaire, on leur fournit les outils, ils font ce qu'ils veulent avec.
D'accord.
D'accord. Nos partenaires.
On va revenir là-dessus sur le modèle, etc. Ouais.
Donc, les partenaires Holberton School qui sont rentrés dans ce réseau-là,
ouais.
Tout le monde a le même programme, tout le monde travaille en même temps. D'ailleurs, on a 33 écoles dans le monde entier aujourd'hui, et tous les étudiants sont connectés entre eux, travaillent en même temps sur les mêmes projets, ce qui donne un univers quand même génial.
C'est foisonnant.
Je voulais essayer de reproduire un petit peu ce que tu trouves en MBA, où t'as le mélange des cultures de personnes intéressées par le même sujet.
Ouais.
En fait, là, tu l'as tout de suite, juste après l'équivalent du bac. Bon, je digresse un petit peu pour revenir à ta question initiale, qui était, si tu peux me la rappeler.
Comment tu t'assures que les gens, ils vont être engagés et qu'ils ont ce qu'il faut entre les deux oreilles?
Donc, pour revenir à cette question initiale, nous, en fait, à Holberton School, on ne teste pas le QI, on ne teste pas ton savoir informatique ni ta culture générale, rien de tout ça.
Ouais.
on fait un test qui est basé uniquement sur la motivation.
Ah.
Donc notre processus d'admission, déjà un, il est gratuit.
Ouais.
Et deux, tu le fais quand tu veux en ligne. Trois, il va tester ta motivation. Et quatre, il va tester ton goût à l'informatique et ton appétence pour ce système d'éducation.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on essaye de répliquer le maximum possible ce qui va se passer tout au cours de l'année.
D'accord.
Tout au long de l'année. Donc, grosso modo, on fait du project-based learning, donc de l'apprentissage par projet. Eh ben, c'est un projet. Donc, au début, c'est des petites questions pour aller voir si tu sais aller chercher un petit peu sur le web.
Ouais.
Qui est Betty Holberton, par exemple, ouais, après qui on a nommé l'école.
C'est tout con.
Donc, oui, juste un petit peu de Google, quand est-ce qu'elle est née, etc., quelle année. Et ensuite, tu arrives sur un projet. Encore une fois, hein, il n'y a aucun prérequis. Mais durant ce projet-là, on va te faire sous le même modèle. Au début, on va te dire 99% de la réponse, après 80, etc. Et puis après, tu dois recycler ce que tu as eu juste avant pour coller un petit peu les morceaux.
Ouais.
On va te faire avoir accédé à un terminal Linux.
Ouais.
Apprendre les premières commandes pour naviguer le système de fichiers Linux.
D'accord.
Downloader et installer un serveur web.
Ok.
Et créer ton premier site web.
Tout ça juste pour sur l'examen d'entrée.
Voilà. Alors exactement. Et c'est pas, j'appelle pas forcément ça un examen. J'appelle ça plutôt un test.
Ouais.
Un test pour savoir si est-ce que ça va te plaire. Et grosso modo, c'est assez rapide.
Ouais.
Soit la personne, elle adore ça, et en fait, elle va faire encore plus que ce qu'on demande. Parce que c'est génial, en fait. Une fois que tu crées quelque chose,
surtout parce que c'est pas évident. Ça doit durer un petit moment quand même, cette affaire.
Alors, on donne 2 semaines aux gens pour le faire.
D'accord.
Ils le font quand ils veulent.
Ok.
D'accord. On n'est pas là avec un chrono en train de dire, peu importe. À la fin des 2 semaines, c'est fini. Tu commences, t'as un timer de 2 semaines, c'est fini. Tu le fais quand tu veux. Et grosso modo, les gens qui vont aimer ça, ils vont être passionnés et ils vont finir ça assez rapidement en général. Ils vont rajouter. Et puis t'as des gens qui, ça leur plaît pas. Est-ce que je peux comprendre totalement? Parce que quand même, être informaticien, c'est être assis toute la journée derrière un écran. Et travailler sur les
c'est
systèmes.
Pas forcément fait pour tout le monde, ouais.
Exactement. Non, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde peut le faire, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et deux, ça va tester aussi un peu la discipline des gens. C'est la personne qui dit toujours ah je le ferai demain. En fait, elle va jamais finir.
Ouais.
Donc c'est un peu un mélange de tout ça. Donc motivation, discipline, et c'est le seul test qu'on a à Holberton.
Ok, très bien. On va revenir dessus après, mais il y a quand même un truc. Alors déjà, pour ceux qui nous écoutent, alors on se voit avec Julien là, mais Julien, lui, il est en train de... Enfin, il a fini son petit déj. Parce que Julien, physiquement, toi, tu es...
Moi, je suis en Californie, j'habite à Menlo Park, dans la Silicon Valley.
À Menlo Park? Mais tu sais que c'est mythique, ça, Menlo Park.
C'est un petit peu mythique, oui.
Mais d'accord, c'est un petit kiff quand même de dire j'habite à Menlo Park.
Non, c'est sympa, ouais. San Francisco, Menlo Park, Palo Alto, c'est vraiment les 3 villes un peu mythiques de la Silicon Valley.
Carrément. Alors, qu'est-ce qui fait que le Julien qui s'est fourvoyé dans des études de biochimie ou de biotechnologie se retrouve à être diplômé de l'Epitech, donc une école d'informatique, passé par le SCP, tu t'es même fait un certificat à Harvard, et t'as atterri à San Francisco. C'est quoi le chemin de Julien?
Le chemin de Julien, si on commence par là, par les études, moi j'étais pas du tout accro aux études, j'aimais pas ça du tout, ça se passait pas très très bien d'ailleurs en collège-lycée. À la fin du lycée, grosso modo, il y avait les choix Ravel, je sais pas si ça existe encore.
Non, c'est Parcoursup maintenant, ça s'appelle.
D'accord. Donc moi, à l'époque, j'avais sauté une classe, donc j'avais 16 ans au moment des choix, je savais pas du tout ce que je voulais faire, j'étais nul à l'école.
Ouais.
Je supportais pas d'être assis comme ça, à écouter quelqu'un passivement, c'était juste horrible pour moi. D'ailleurs, j'étais toujours collé. Je sais pas si c'est pour ça que ton émission s'appelle comme ça, mais ça colle bien.
Non, en fait, quand t'es en prépa, la colle, c'est un exercice, ouais, où tu te retrouves face à un prof pendant une heure et à l'oral, tu as un problème de maths ou une colle, quoi.
Moi, j'étais collé quasiment tous les week-ends de la quatrième à la terminale. Donc, je devais revenir le week-end, le samedi, pour faire des devoirs en plus parce que soit j'écoutais pas, soit j'étais trop bruyant. J'aimais bien parler avec mes camarades et les faire rigoler.
Okay.
Et bon, j'avais pas des très très bonnes notes. Donc, grosso modo, la seule matière dans laquelle j'avais la moyenne, c'était la biologie. Donc, je me suis dit, ok, je vais faire quelque chose. J'aime pas les études, donc je vais faire un BTS.
Ouais.
Ça va assez rapidement, et puis comme ça, je peux aller travailler derrière. Donc, j'arrive en BTS en biotechnologie, et je trouve ça passionnant, c'est génial.
D'accord.
Extraordinaire, c'était une expérience. Ah ouais, c'était super. J'étais à l'ENCPB, j'avais des profs vraiment géniaux et j'adorais ça, c'était super. Et
ah,
à
donc
la
tu
fin
t'es pas
du
fourvoyé,
BTS.
t'as vraiment pris du plaisir sur cette période-là.
Ah ouais. Ah
D'accord.
ouais, non, c'était vraiment génial. Et puis c'était la pratique aussi, hein. On faisait des choses, enfin il y avait beaucoup de théorie quand même, mais il y avait quand même beaucoup de pratique par rapport à d'autres types d'études en BTS. Donc c'était vraiment très sympa. Et à la fin du BTS, moi j'avais ma copine qui partait en licence en biochimie, et moi je savais pas quoi faire. Mais ce dont j'étais sûr, c'est que je voulais pas m'arrêter au BTS, parce que entre temps, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que je me souviens que notre prof de biochimie d'ailleurs avait demandé à toute la classe c'était quoi leur métier de rêve.
D'accord.
Et en fait, quand t'as un BTS, le métier de rêve, c'est assistant ingénieur. Voilà. En
Ouais.
tout cas, c'était ce que tout le monde disait. Alors, pas de jugement de valeur. C'est un très bon poste. Encore une fois, j'ai adoré ces études, mais le mot assistant m'a gêné.
Ouais.
Et je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas travailler toute ma vie pour finir assistant. Et donc, je me suis dit, OK, bon, bah, faut que je fasse autre chose. Ma copine partait en licence de biochimie. Je savais pas quoi faire. Je suis parti avec elle. Voilà. C'est aussi simple que ça.
Ça
Et je
tient
me suis
un peu de choses, des fois, hein, monsieur.
Tout à fait. Et donc, je suis arrivé en licence de biochimie, où en plus, pour moi, l'université, c'était un monde incroyable où j'allais forcément me ramasser. Et je suis arrivé en licence de biochimie et je me suis rendu compte qu'au final, c'était pas si dur que ça.
Ouais.
Et que, bon, il fallait quand même travailler, hein, c'est pas les vacances. Hein. Mais ma copine, à l'époque, elle était hyper, hyper studieuse. Donc, du coup, je l'aidais à réviser. Et
Okay.
puis du coup, ça s'est bien passé parce que je révisais en même temps. Je sais plus si c'était le premier semestre ou le deuxième semestre. En fait, on a eu on avait le choix de spécialisation. Donc j'ai fait le choix des mathématiques stochastiques et informatique.
Wow.
Et c'est là où j'ai découvert en fait l'informatique. Et donc en fait, on avait des cours de MATLAB. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et du coup, j'ai fait de l'Excel, j'ai fait du MATLAB. J'ai commencé comme ça avec mes macros
ouais.
Excel.
Ah, donc tu sais
En fait,
coder
tout ce
en
qui est
VB aussi, alors
Non, j'ai pas fait de VB, je faisais tout dans les cases, là. Égal,
Ah oui?
machin.
Ok,
Ah
incroyable.
ouais,
D'accord.
c'était sur 10 lignes, des fois, c'était assez incroyable. Donc, je m'amusais, en fait, à faire les cours de bioinformatique et je faisais tout avec Excel.
D'accord.
Donc, c'était du travail en plus parce que, il y avait pas besoin de faire ça. Et du coup, en fait, l'informatique, ça m'a bien plu. Et je me suis dit, OK, bah, c'est ça que je vais faire, en fait. Et j'ai commencé à regarder à droite à gauche quelles étaient les écoles disponibles.
Ouais.
Et puis, j'ai regardé Epitech. J'ai adoré Epitech. J'ai passé les concours pour Epitech, Supinfo, Epita.
Oui.
Et au final, j'ai choisi Epitech parce que c'était ce qui me correspondait le plus. Et à l'époque, c'était un tout petit peu différent de maintenant. Où à l'époque, c'était beaucoup de passionnés qui faisaient que ça, complètement geek. Et puis, bah, c'était à peu près qui j'étais. Hein, donc, c'était très bien.
Ça collait bien.
Voilà, alors, donc j'ai fait l'Epitech, ça s'est très bien passé.
Alors juste
j'ai adoré,
un petit aparté, parce que
ouais.
Moi ça me fait triper. Tu le marques sur ton LinkedIn, tu as été
ouais.
valedictorian
ouais.
pour ton bachelor donc en biochimie, et à l'identique
ouais.
valedictorian
ouais.
à l'Epitech. Est-ce que tu peux expliquer
ouais.
à ceux qui sont pas anglophones ou versés à ça ce que c'est qu'un valedictorian?
Le valedictorian, c'est le major de promo.
Et voilà.
Donc c'est la personne
c'est
qui finit
classe,
avec les meilleurs.
Pas la classe, ça, monsieur.
Alors, ça fait plaisir à ma maman. mais bon, valedictorian, bon, c'est rigolo. Tu le mets sur LinkedIn, c'est rigolo. Mais en gros, ça, en fait, sur le marché du travail, ça sert à rien. À partir du moment où vous avez votre diplôme,
non, mais
vous êtes motivé.
Pour moi, tu vois, c'est un bon indicateur que t'étais à ta place, ou en tout cas, tu t'es éclaté dans ce que t'as fait. Parce que t'es pas le premier, t'es pas le majeur de promo, si c'est un pinceau, mais si tu le fais, tu vois, ça prouve
ouais.
là aussi un engagement, tu vois, on parlait de l'engagement de vos étudiants.
Non, tout à fait, ouais.
Voilà, c'est ça, quoi.
Ouais, tout à fait. Bah, c'est discipline et engagement, ouais.
Mmh.
Tout à fait. Comme pour tout, en fait.
Et alors après, c'est quoi la suite?
Donc, je fais l'Epitech, je me dis, et je commence un boulot d'ingénieur informatique.
Ouais.
Et je me dis, non, mais en fait, je suis pas sûr que ce soit pour moi. Donc voilà. Donc j'ai fait 7 ans d'études.
Cool, ouais.
8 ans d'études. Et je me dis, merde, est-ce que je suis vraiment à ma place? Et du coup, sur le côté, je fais, sur les cours du soir,
ouais.
Je fais l'EGE, l'école de guerre économique.
D'accord.
De Paris.
Ouais.
Du groupe SLSK.
Ouais.
Et là, j'adorais. C'était génial, extraordinaire aussi. Et en fait, ça m'a donné, les deux m'ont donné des bases assez fortes pour pouvoir avancer dans ma carrière. et tu t'en rends pas forcément compte tout de suite, mais ça te donne des réflexes parce que bon bah t'apprends ça quand t'es jeune, t'as le temps de d'assimiler au fur et à mesure. Mais bon, grosso modo, je suis ingénieur informatique pour une société qui s'appelle Wengo. En même temps que je fais le GE, je leur dis, écoutez, moi je suis pas sûr que ce soit un fit parce que bah je m'emmerde quoi. Et me disent, ah Julien, t'as plein d'idées, etc. Est-ce que on a un poste qui se libère au produit? Est-ce que tu veux faire un peu de produit? Ouais. Et donc c'était extraordinaire parce que j'avais aucune étude dans ce domaine-là. Mm-hmm. Ils venaient juste de m'embaucher un très bon salaire. Et ils ont fait le pari que potentiellement je pouvais. Donc c'était une chance extraordinaire qu'ils m'ont donnée et je la remercierai jamais assez. Et j'ai fait ça, donc, et ça m'a bien plu. Donc je mélangeais un petit peu ce que je connaissais en informatique avec le produit, je faisais plein de logiciels pour automatiser plein de choses, et puis je pouvais parler avec l'équipe tech, ce qui n'était pas forcément ouais, facile avant sans une personne un peu de mon profil. Et voilà, donc je travaillais en tandem avec quelqu'un qui s'appelait Anne Fleur, enfin qui s'appelle toujours Anne Fleur, qui est aussi quelqu'un d'extraordinaire, qui m'a appris plein de choses sur le produit. Et au final, après, le produit a bien marché là-bas, et donc il lance des pays, d'autres pays que la France, et il me propose de gérer l'international. Donc je dis oui, c'est génial.
Trop bien.
Donc, je commence à gérer l'international, donc maintenant je fais du développement international, un peu de PD. Et en fait, c'est cool parce que j'adore faire plein de choses. Et en fait, un des trucs qui me faisait peur, en fait, je me souviens de plein de discussions que j'avais avec des gens que j'ai rencontrés à l'EG qui étaient extraordinaires. C'était, mais en fait, je me vois pas faire tout le temps la même chose toute ma vie, quoi. C'est pas possible, quoi. Je me vois pas faire des programmes toute ma vie, ou je me vois pas faire que de l'intelligence économique toute ma vie, ou faire que du produit toute ma vie, etc. Donc c'était cool. En fait, ils m'ont donné à chaque fois ma chance chez Wengo. Ça se passait très bien. Et en parallèle, évidemment, à un moment donné, t'as envie de monter ta boîte.
Ça commence à te titiller, en tout cas, ouais.
En tout cas, ouais. En tout cas, j'avais commencé à avoir des idées de projet. Donc à l'époque, j'étais en colocation avec un ancien Epita. Et nous, ce qu'on voyait quand on sortait de l'Epitech, c'était que on appliquait à des...
On postulait
à des jobs. Ce que nous disait la personne qui était en face de nous, c'était tout le temps la même chose. L'entreprise est extraordinaire. Il y a une super ambiance. Tu vas voir ton boss, il est extraordinaire. Tes coworkers, ils sont motivés. Bon, là, on peut pas te payer trop, hein, parce qu'on a pas d'argent. Mais tous les gens qui restent avec nous, on sait reconnaître leur travail, etc. Et puis tout le monde signe parce qu'on a aucune expérience, c'est notre premier boulot, et puis on n'a pas de réseau. Et puis on se rend compte qu'en fait le boss il est un peu tyrannique, et puis que tout le monde est en train de partir, qu'il y a deux personnes qui sont plus là parce que elles sont déprimées, et puis que personne n'a jamais eu d'augmentation de salaire depuis 3 ans. Là tu te dis merde.
Le monde, bienvenue dans le monde merveilleux des startups.
C'est pas forcément que des startups d'ailleurs, ouais. Hein, c'est toujours un peu comme ça. Et là, on s'est dit avec mon colocataire de l'époque, qui s'appelle Arnaud, est-ce qu'on pourrait pas créer un site web pour que les salariés donnent leur avis sur leur boîte, pour que les futurs salariés ne se fassent pas avoir.
Ouais.
Donc en fait, tu crées un espèce de réseau ouvert pour Toulouse, pour tous, pour comprendre vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière le sales guy qui te vend le poste. Même, hein. C'est très touchy. Donc ça s'appelait noteTonEntreprise.fr. Et évidemment, quand on a lancé, gros succès. Gros succès à deux niveaux. Donc on avait plein de gens qui venaient noter leurs entreprises, j'étais contacté par tous les journaux, les radios, la télévision, tout le monde parlait de nous. Et le deuxième succès, c'était que ça m'a permis en fait de comprendre et de mettre un pied dans le monde des avocats, parce que tout le monde m'attaquait en justice. Donc ça a été une expérience extraordinaire que je vis très bien aujourd'hui, mais qu'à l'époque je ne vivais pas du tout bien.
Ah, la première lettre recommandée que tu reçois, ça fait bizarre, hein.
Tout à fait. Donc le premier jour où on a lancé, j'étais hyper heureux, on a eu un article sur 01net,
ouais,
directement. Et on rentre et on check nos mails, et là on a un avocat qui nous écrit pour dire qu'on est attaqué et qui nous attend au tribunal de Brest.
Oh putain, là, dis, en Brest, merde. En plus, c'est pas cool.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je fais? Donc moi, j'avais jamais vu d'avocat de ma vie, à part dans les feuilletons.
Ouais.
Et je me dis, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc on se regarde avec Arnaud, je dis, qu'est-ce qui se passe? Donc on appelle plein d'avocats pour savoir s'ils peuvent nous prendre, personne n'est libre, personne peut nous prendre, on envoie des mails, personne nous répond. Et au final, on a deux avocates qui nous répondent et qui veulent bien prendre nos dossiers, et donc on commence par un premier coup de fil, et je me rappelle, elles nous disent c'est au pire, vous fermez la société et puis c'est fini, donc vous inquiétez pas. Et puis je regarde Arnaud et puis je lui réponds, je lui dis mais quelle société, on n'a pas de société. Et là j'entends oh là là.
les baltringues se lancent dans le vrai monde.
Exactement, mais vous êtes fous. Et c'est comme ça en fait que j'ai monté ma première société avec avec mon colocataire de l'époque, Arnaud.
Ah ouais, parce que là, là sinon vous jouiez votre tête en propre, hein, et donc c'est pas drôle du tout là.
Non. Mais voilà, donc j'ai monté ma société pour me protéger, pas pour gagner de l'argent la première.
C'est ça. Voilà. Mais c'est une belle expérience, c'est une bonne expérience.
Ah, c'était une expérience extraordinaire, j'ai appris énormément. Et j'ai surtout appris qu'il y avait plein de choses que je savais pas.
Ouais.
Parce que quand tu sors de l'épithèque, t'as fait des études, machin, t'as un bon salaire, à l'époque j'ai gagné 42 000 euros, c'était énorme. Bah, tu te dis un peu, t'es
au top du monde. Ouais.
Et puis là, ça te, tu vois, ça te rend un peu humble, hein, parce que là, tu t'es fait défoncer, quoi. Défoncer par les avocats de tous les côtés, de tout le monde, c'est incroyable, quoi. Ouais. Et puis là, tu dors pas bien, parce que tu, donc tu fais pas ton malin. Et puis t'as la dette qui s'accumule, quoi, parce qu'on n'avait pas l'argent pour payer les avocats, non plus.
Ah oui.
Tu vois, c'était pas, ouais. C'est pas évident. Et donc voilà. Donc au final, ça se passe moyen en France. On bouge la boîte aux États-Unis avec un ancien d'Epitech qui nous dit bah venez aux États-Unis, je prends un pourcentage de la boîte et puis c'est moi qui gère le légal.
Ouais.
Et grosso modo aux États-Unis t'as le droit de parole quoi. En fait. Ouais. Donc ils prenaient les lettres d'avocat et ils mettaient à la poubelle. Et c'est comme ça qu'on a survécu un peu plus longtemps. Et
c'est,
au final les.
C'est comme ça que ton point .fr tu l'as transformé en .com. Surtout.
Voilà.
Pas con, c'est pas con.
Et donc en fait, ça nous permettait de nous protéger nous, mais ça permettait aussi de protéger les utilisateurs.
Ouais, je comprends.
Parce que sinon, diffamation, machin, ceci, cela, et c'était compliqué. Donc tout était anonyme, mais à partir du moment où tu reçois une lettre du tribunal, t'es obligé de leur donner le nom. Quoi.
Et donc les deux avec Arnaud, vous partez en Floride ou vous
Non, on n'est pas parti.
Vous êtes
On
pas
est resté ici. On a créé la boîte là-bas.
Ok.
Et il y a du coup un troisième associé qui est rentré dans la société, qui lui était en Floride.
D'accord.
Et donc. Évidemment, c'est un deal. Donc, il prend un bout de la boîte et je lui dis OK. Mais en échange, comme lui faisait du e-commerce et qu'il avait fait fortune en e-commerce, je lui dis en échange, eh ben, tu m'aides à monter mon premier truc e-commerce. On fait un truc ensemble. Il me dit OK.
D'accord.
Au final, pour finir sur notre entreprise, on est obligé de vendre parce que ma dette avocate, c'est trop gros.
Ouais.
OK. Et quand je dis trop gros, c'est pas des 100 000 dollars, mais à l'époque, c'était, je crois qu'on était à 10 000 euros.
C'est trop gros pour toi.
J'avais pas d'argent. Ouais. J'avais pas cet argent, quoi. Donc, on vend le site. Très peu d'argent,
ouais.
Mais grosso modo, on peut rembourser les avocats.
Bon.
Et on est content. et du coup, on commence site e-commerce. Alors là, je suis là et je lui dis, OK, donc, par quoi on va pouvoir commencer? Il me dit, ah, bah, j'ai un super, j'ai plein de contacts avec pas mal de fournisseurs et on se dit, bah, tiens, on va faire les montres Casio.
D'accord.
Donc, pourquoi les montres Casio? Parce qu'on avait accès aux fournisseurs. Et que, grosso modo, on les avait à 50% du prix du marché.
D'accord.
Et que, du coup, on pouvait les revendre à moins 30% du prix du marché en faisant un peu de pub. Donc, je me dis, c'est génial. Les gens, ils vont nous acheter nos montres, quoi.
Bien
donc,
sûr.
On fait le site, on met les montres en ligne. Et puis, bah, ça marche pas, quoi. Et je comprends pas. Je dis, mais les gens, pourquoi ils payent 30% de plus? C'est pas logique. Et ben, ça marche pas. Donc, on arrête. Après, on essaye autre chose. Donc moi, j'aime bien les sports de combat.
D'accord.
Donc à l'époque, je faisais du MMA.
Ah ouais.
Et il y avait des t-shirts spécialisés.
Le MMA, quoi. C'est violent comme truc.
Non, c'est violent quand tu sais pas, quand t'es de l'extérieur. Mais à partir du moment où les deux personnes sont de plein gré dans une cage, ça se passe bien, quoi. Il y a beaucoup de règles
qu'on peut pas dans une cage. Tu t'entends pas?
Ouais.
En plus, vous le voyez pas, mais il a une bonne bouille, tu vois. Il a l'air super sympa.
Ouais.
Non, il est abîmé de partout, en effet.
Vu de près. Regarde ça.
Ah mon dieu. Ouais, il a des cicatrices, c'est affreux. Oh mon dieu.
Non, pas des cicatrices, fais pas peur aux gens. Le MMA, c'est très bien. Mais donc du coup à l'époque il y avait tout un écosystème de t-shirts de ouais. combattants avec des logos spéciaux etc qui était accessible un petit peu en France mais très très cher. Donc je me dis je vais faire ça. Donc je vais appeler les fournisseurs américains. Je me fais passer pour un énorme fournisseur français.
Ouais, d'accord.
Je leur dis écoutez moi je vais prendre tout le marché français. On fait un deal. Et je faisais ça avec un copain qui s'appelle Florian. Et ils nous disent, bon, écoutez, on vous envoie quelques t-shirts et voyez ce que ça donne, quoi. Donc ils acceptent de nous vendre des t-shirts. Mmh. Donc on le prend un minimum et puis après on les revend. Et ça ne marche pas. Donc là, mais là, je me dis, mais c'est pas possible, on les vend 50% moins cher que sur.
Il y a comme un pattern là qui commence à se dessiner. Hein.
Pardon?
Il y a comme un pattern qui commence à se dessiner là.
Comme un pattern. Et donc après, bon, je me dis, ok, bon, franchement, c'est pas possible, quoi, je comprends pas. Allez, on essaie autre chose. Et donc là, on dit, bah, il y a un énorme marché de piles. On va vendre des piles. Et donc, on se dit, les double A, les triple A, tu sais, les LR6 et LR3, ça va cartonner, on les vend à moins 80%.
Cool.
On peut les avoir à moins 90, on va les vendre à moins 80%, ça va être un truc de fou, ça va être la folie. On va faire fortune. Et donc, on commence par... donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais un budget à l'époque qui était complètement nul maintenant, parce que j'ai acheté des montres, je ne les ai pas vendues, j'ai acheté des t-shirts, je ne les ai pas vendues. Et donc, j'ai zéro. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle le fournisseur, je lui dis, envoie-moi la plaquette, s'il te plaît. Mmh. Donc, il m'envoie sa plaquette avec toutes les références. Et je mets toutes les références sur le site avec des photos, des machins, etc. Et en fait, on fait un peu de pub pour les LR3 et les LR6. Et on en vend zéro. Mais zéro, quoi. Mmh. Par contre, on vend plein de piles dont on n'a jamais entendu parler. Des CR2032, des CR2056, des CW, je sais pas quoi, des piles avec des formes très bizarres. Et là, ça commence à bien marcher. Je dis, ouais, c'est fou. Donc, j'annule toutes les commandes parce que j'avais pas les piles. Et puis, du coup, j'achète ces piles-là.
Ouais.
Et je recommence. Et en fait, ça a cartonné. Et là, je dis, mais c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi?
Donc
là,
ça cartonne.
Voilà, pourquoi ça? Donc là, je dis, ok, donc les montres, ça n'a pas marché, les t-shirts, ça marche pas, les piles normales, ça marche pas, mais les piles un peu bizarres, ça marche pas. Et là, je me dis, mais en fait, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Bah, quand une personne a envie d'une montre, il va l'essayer chez le bijoutier, et il peut pas se retenir de l'acheter tout de suite.
Ouais.
Instant gratification.
Mmh.
Et donc, au fait, au lieu de se dire, peut-être que je vais aller voir si c'est moins cher ailleurs, il l'achète tout de suite.
Mmh.
Les t-shirts, pareil, il l'essaye. Ah, je suis trop beau avec. Allez, c'est parti, on y va. Il veut pas attendre. Il faut qu'il attende la livraison, le machin.
Donc, le discount que tu proposes est pas un élément de choix.
Alors, je pense que c'est un élément de choix si tu l'as en face de toi à un même moment.
Oui, voilà. Ouais.
À un moment donné. Mais quand tu peux porter le t-shirt que tu l'as sur toi.
Ouais.
T'as pas envie de le remettre sur l'étagère et te dire, OK, je vais attendre une semaine, je vais essayer de voir si je le trouve moins cher.
C'est un achat plaisir.
Tout à fait. Et la montre, c'est pareil. Tu l'as autour de ton poignet et tu te dis, allez bien, allez, on la prend. Allez, c'est parti. Et les piles, pareil. Les piles, les LR3, les LR6, tu les prends en tête de gondole quand tu vas faire tes courses à Carrefour ou à Walmart.
Ouais.
Mais par contre, les petites piles que t'as besoin pour, dont t'as besoin pour des choses, pas de la vie forcément de tous les jours, en fait, elles sont pas en tête de gondole. Tu les trouves pas facilement. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la référence de la pile quand tu dois la changer, tu regardes et tu la tapes sur Internet tout de suite. C'est ton réflexe. Et qu'est-ce qui se passe? Ben moi, j'ai acheté le mot-clé de la référence et boum, tu atterris sur mon site.
Et ben voilà.
Et ben voilà. Et là, je me dis quoi? Je me dis, ben voilà, on va faire que du marché de niche. Et à partir de là, j'ai fait des stylos espions. J'ai fait tous les objets espions que tu pouvais trouver inimaginables. Donc, les boutons espions avec des caméras intégrées, des cravates avec des caméras intégrées, des casquettes. J'ai trouvé un petit peu partout, ça dépendait des marchés. Donc on avait par exemple tout ce qui était un peu électronique technologique, c'était plutôt en Chine.
Ouais.
On a fait des produits de lissage brésiliens au Brésil.
Trop
on
bien.
Est du Brésil.
Trop bien.
On a fait des extensions de cheveux qui venaient d'Inde.
Ouais.
Et on a fait plein de choses comme ça, j'ai fait des kits de conversion
à Chine d'exemple pour les voitures. De cheveux. C'est un truc improbable quand même.
Ben en fait, tout ce que tu vas pas trouver chez Carrefour, en fait, je commençais à vendre.
Ouais.
Et donc à l'époque j'avais un autre associé qui s'appelait Mathieu qui était génial parce qu'il avait les mêmes réflexes que moi et on trouvait tous les deux dans la vie de tous les jours tu regardes un petit peu autour de toi tu te dis ah bah peut-être que ça peut marcher quoi et puis après on avait plein de frameworks pour savoir est-ce que ça allait marcher plus vite ou pas on pouvait lancer des petits sites de test avec un tout petit peu de budget pour voir si ça marchait ça marchait pas on coupait si ça marchait pas regarder les marges est-ce qu'on pouvait faire assez de marge par rapport à la pub Google qu'on va anticiper etc. Et c'est comme ça que j'ai créé la première société qui a marché après quand même pas mal de tests quoi.
Ça a galéré un petit peu ouais c'est vrai.
Ça a galéré un petit peu c'était pas overnight ouais. Et au final, cette société-là, on l'a revendue. On a eu un acheteur anglais qui nous l'a racheté.
D'accord.
Et à l'époque, j'étais installé à Miami avec ma femme.
Mmh.
Et Miami, ça plaisait pas trop à ma femme. Et moi, j'aimais bien, mais ma femme, bon, ouais. Et puis, avec mon background d'ingénieur informatique, un de mes rêves, c'était aller à Disneyland de l'informatique en Silicon Valley. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec deux amis à moi qui étaient dans l'e-commerce,
ouais,
à l'époque encore, et qui sont encore dans l'e-commerce d'ailleurs. Enfin, un. On part en Silicon Valley en voyage pendant, je sais pas, on a dû passer 4-5 jours,
d'accord,
peut-être une semaine max. Et puis là, on rencontre, je rencontre des anciens d'Epitech, et puis des gens qu'on a complètement randomly contactés sur LinkedIn.
Ouais.
Avec des CEO, des ingénieurs, des designers, de tout, quoi, pour bien comprendre le système.
Ouais.
C'est un
voyage d'études.
Un espèce de voyage d'études, ouais, si tu veux, ouais, exactement. Et puis là, je rencontre des gens incroyables, ils sont tous passionnés, c'est génial, tout le monde a plein d'idées de start-up, de trucs, de machin, c'est extraordinaire, je dis, waouh, incroyable, quoi.
Mmh.
Et puis je rencontre un ancien collègue d'Epitech, avec qui j'avais fait tous mes projets de fin d'études, qui s'appelle Solomon Hikes.
Ouais.
Et lui, il avait monté une boîte qui s'appelait DotCloud.
Mmh.
Donc DotCloud, c'est un pass.
Tu sais que je l'ai rencontré, lui, quand il était encore à Paris.
Ouais.
Et je me mords les... tous les jours de pas l'avoir financé à ce moment-là.
Ouais, bah ça personne n'y croyait, personne pouvait savoir non plus, honnêtement. Parce que DotCloud à l'époque ça marchait pas très bien.
Ouais.
Quand même, hein. Et au final donc il me propose un poste pour gérer tout le marketing et la croissance de la boîte. Et je dis OK, allons-y quoi. Donc je déménage avec ma femme, on arrive là-bas. Le temps de, tu vois, prendre un petit peu mes marques, je commence à gérer une petite équipe, etc. Ça commence à aller pas mal, à beaucoup mieux, et puis Salomon, il a une nouvelle idée. Cette nouvelle idée, c'est le Docker qu'on
exactement
connaît d'aujourd'hui.
Le truc qui va tout changer.
Le truc qui va tout changer, toute l'industrie informatique, ouais. Incroyable. Mais à l'époque, on savait pas. Mais il sentait qu'il y avait un truc, et quand on parlait aux gens qui testaient, on savait qu'il y avait potentiellement quelque chose. Après, honnêtement, je ne pouvais pas imaginer que ça allait être aussi gros que ça.
C'est énorme.
Et du coup, j'arrive en octobre et en mars, on pivote sur Docker.
Ouais.
Donc, réduction des effectifs, réduction des budgets, enfin, c'était la folie. Et on recommence à zéro. Donc, la société vaut zéro.
Mm-hmm.
Zéro, littéralement zéro, quoi. Après avoir fait un pic énorme avec justement DotCloud. Donc, un rebirth pour Salomon et pour la société. Et puis du coup, je gère le marketing. Il faut que et la com, il faut que tout le monde connaisse Docker.
Ouais.
Comment on fait quoi. Donc, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça, c'est encore une heure à lui tout seul. Mais
c'est con parce que c'est super
modo,
intéressant hein, parce que sur tout ce qui, sur ouais, toute la partie growth comme ça, d'autant après un pivot majeur.
Ouais.
Puis voilà, puis quand on connaît la suite de l'histoire, tu dis que tu t'es pas quand même, enfin, ouais, ok, la base était saine et tout ce que tu veux, mais tu t'es pas trop mal démerdé quand même sur ce coup-là.
Ouais, on s'est bien démerdé et je me suis bien démerdé aussi. Et je pense que on était une petite équipe, mais ce qui était extraordinaire, c'est que tout le monde était vraiment 100% à fond, quoi.
Ouais.
Et tout le monde était, c'était incroyable. Cette première phase de période de Docker était juste incroyable. Je sais même pas si on était 10. Et tout le monde était à fond, quoi. C'était la folie, quoi. On travaillait, mais comme des oufs. Et on avait une croissance ça marchait, quoi. Et, c'était pas le succès du jour au lendemain qu'on peut croire, mais, ça a été exponentiel assez rapidement, quand même. Hein.
Ouais.
Et donc, de 0 dollar à, en 2013, on est passé en moins de 3 ans à plus d'un milliard de valo.
Ouais.
Avec quasiment toutes les boîtes de la terre entière qui utilisent la technologie Docker.
Ouais, c'est ça que, enfin, ceux qui sont pas trop versés dans ce milieu comprendront pas forcément, mais peut-être tu l'expliqueras beaucoup mieux que moi. Mais en gros, ça a changé la façon de programmer quelque part un petit peu.
Tout à fait. Ça a changé la façon de créer les logiciels et de les mettre en production.
Ouais.
Donc pour petit aparté, Docker, qu'est-ce que c'est? On va faire un petit pas on the side pour regarder l'industrie du transport. Donc, l'industrie du transport, avant, il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, Il y avait plein de formats différents de transport pour transporter des choses d'un point A à un point B. Donc, t'avais des sacs pour le riz, t'avais des tonneaux pour le vin, les voitures, tu les mettais directement sur sur le paquebot, les produits chimiques dans des barils. Et ça posait plein de problèmes. Donc, parce que chaque contenant était différent. Et puis il y avait des possibilités que le produit chimique
il se déverse dans le
riz sur le riz, c'était compliqué quoi. Ouais. Et puis pour décharger un bateau, il fallait des gens qui conduisent la voiture, il fallait des gens qui transportent les sacs, il fallait d'autres personnes qui roulent les tonneaux, et donc c'était des formats très différents, ça gênait beaucoup. Et ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un a inventé un standard qui est le container de shipping. Mm. Et donc en fait à partir de là, en fait tous les produits ont été transportés dans ces containers-là avant de les mettre sur un moyen de transport. Et comme c'était tout le temps le même contenant, ce container de shipping, et ben en fait toute l'industrie et tout l'écosystème s'est adapté à ça. Donc les grues, les bateaux, les camions, les trains, tout le monde transportait la même chose. Et en plus c'était hyper sécurisé, du coup, parce que un container de produits chimiques à côté d'un container d'habits, c'est pas grave, parce que ça passe pas d'un côté à l'autre. Et donc, dans l'industrie du logiciel, ce qui se passe, c'est que tout le monde programme sur son ordinateur. Et sur son ordinateur, on doit installer des bibliothèques, des dépendances, etc., pour que le programme marche. Mmh. Et une fois qu'on prend son code qui marche sur son ordinateur et qu'on le met sur le serveur,
c'est galère.
Et là, ça marche plus.
Il y a plus rien qui marche.
Ça marche plus parce que on n'a pas les mêmes bibliothèques sur le serveur. Le serveur, c'est un espèce de gros ordinateur un peu plus puissant que celui qu'on a chez nous. Donc, alors que là, c'est une grosse prise de tête. Alors, attends, il faut que je remette cette nouvelle dépendance. Ah, ben, si je mets cette dépendance-là, ça va casser une autre dépendance d'un autre logiciel qui marche sur le même serveur. Mince. Donc, qu'est-ce qu'a fait Docker? Docker, il a inventé le shipping container du logiciel. Donc, les gens, ils programment dans ce container-là. Et après, on transporte ce container-là sur le serveur avec toutes les dépendances, les bibliothèques qu'il faut. Et la sécurité qui fait que si tu as deux logiciels qui tournent sur le même serveur ou sur le même cloud, avec des dépendances différentes, pas de problème.
Exactement.
L'un et l'autre n'interagissent pas ensemble puisque c'est sécurisé par ce container.
Ils peuvent utiliser des librairies identiques mais avec des versions différentes parce qu'ils sont dans des containers différents tout simplement.
Voilà, exactement.
Et ça sauve la vie quand tu cherches l'erreur à ligne 37024 et que tu comprends même pas le message d'erreur.
Voilà. C'est ça.
Et donc,
ça
devait être une. En plus, c'est une période où Docker fait des levées de fonds. Je crois qu'il y a une levée. Il doit y avoir une levée de 100 millions ou un truc comme ça, non?
Ouais, je crois 90 la dernière.
Ouais. Voilà, c'est.
Enfin, pas la dernière. Excuse-moi, ils ont levé il y a quelques semaines là.
Ah oui.
À une valeur de 2,1 milliards, je crois.
Trop bien.
Quelque chose comme ça.
Solomon, si tu nous écoutes, je t'ai laissé un message sur LinkedIn en te disant que j'aimerais bien faire un épisode avec toi. Voilà, à l'occasion, réponds-moi. On sait jamais. Donc ça doit être une période assez excitante. Qu'est-ce qui fait que là encore ça va te gratter et tu vas aller vers autre chose?
Je pense que il y a plusieurs choses qui jouent dans l'équation, mais je pense que une des raisons principales, c'est que moi, ce que j'avais dit à Solomon, j'avais dit ok, je te promets un an, je reste un an pour t'aider à grossir, à redresser le bateau, etc. Ça faisait 3 ans, la boîte elle était toujours en exponentielle, et à un moment donné je me suis dit soit ok, j'assume que je reste là, soit je remonte ma boîte qui était mon but à l'origine.
Ouais, je comprends.
Donc moi, je me suis dit, ok, c'est cool, je viens un an, j'apprends en même temps et puis je monte ma boîte en Silicon Valley. C'était ça le but à l'origine.
Ouais, je comprends.
Mais c'était tellement excitant que moi, j'ai pas vu le temps passer. Honnêtement, c'était incroyable parce qu'en 3 ans, moi, j'ai vécu ce que la plupart des gens vivent en 15 ans.
Ouais, ça m'étonne.
C'était incroyable. Il y a des fois, dans l'espace de 2 mois, on devait changer de bureau et puis 2 mois après, on devait rechanger de bureau tellement il y avait de gens qui devaient venir. Parce qu'on avait fait une grosse levée de fonds, parce qu'on avait tel client, parce que il fallait supporter des millions de personnes, des millions de downloads de containers logiciels. C'était incroyable. Je me souviens le premier déménagement, ça grouillait de partout. C'était incroyable. Et moi, je faisais mes calls devant les toilettes parce qu'il y avait plus de place. Quoi. Il y avait plus de place dans l'office, mais il y avait plus de place dans les couloirs non plus. Tellement la société était active. C'était incroyable. C'est une fourmilière. C'était génial. J'ai appris énormément.
En plus, tu mets un réacteur nucléaire au sein du lieu où tout se passe d'un point de vue informatique. C'est-à-dire que ça va être gigatonique comme ambiance. Hein.
Ah non, c'est extraordinaire. Là, un des gros avantages de la Silicon Valley, c'est que tout le monde est là, en fait. Ouais. Tout le monde est là. Donc, toutes les sociétés tech sont là, tous tes providers sont là, toutes les sociétés de services sont là, tous les VC sont là. Enfin, t'as une concentration incroyable qui sera jamais répliquée ailleurs. Jamais. Ouais. On pourra faire des choses bien ailleurs, mais ça sera jamais ça, quoi. C'est pas possible. Ça attire, la Silicon Valley, ça attire tellement de monde en plus. Donc, t'as tous les gens qui viennent du monde entier, qui sont un peu fous, qui sont là, quoi.
Ouais.
Tout le monde est là. Ouais.
Avec, y a à boire et à manger aussi.
Ah non, il y a de tout, hein, bien sûr. Hein. Bah, de toute façon, c'est comme partout. Hein. 90% des sociétés marchent pas.
Et donc, il y a cette envie d'entreprendre, on va dire, qui t'avait, enfin, que tu poursuivais depuis toujours, d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait que, à un moment, tu te dis, tiens, autour de l'éducation, autour de cette industrie-là, il y a un truc.
Ouais, bah, en fait, c'est assez évident. Aujourd'hui, il y a pas assez d'ingénieurs sur le monde du travail. C'est juste une catastrophe. Ouais. Quand tu vois en Silicon Valley, en plus, c'est une bataille constante pour essayer de recruter quelqu'un. Quoi. Mmh. Les salaires, ils sont mirobolants et c'est juste pas soutenable, quoi. D'un point de vue économique,
en
fait.
Pour que tout le monde ait une petite idée, aujourd'hui, un développeur junior dans la baie de San Francisco, ça vaut combien?
Bah écoute, moi je peux te donner le salaire des gens qui finissent Holberton, ouais. Qui ont fini Holberton en Silicon Valley. En moyenne, ils sont à 107 000 à la sortie de l'école après un an et demi, voire 9 mois d'études.
C'est incroyable, voilà. Énorme, incroyable, tout ce que tu veux, tous les superlatifs. Ouais.
Tout à fait. Et c'est les mêmes, et quand tu sors de, je crois que quand tu sors de Stanford, t'es à 105, quelque chose comme ça. Donc c'est,
vache.
Tu vois, pour reboucler sur ce que je disais tout à l'heure, nos étudiants, ils arrivent à avoir les mêmes jobs que quelqu'un qui sort de Stanford. Quoi.
Ouais, et puis enfin
au même prix.
Comprenons-nous bien, c'est des jeunes diplômés.
C'est des gens qui n'ont aucune expérience. Tout à fait.
Voilà.
Voilà. Donc si jamais t'as 5 ans d'expérience en Silicon Valley et que tu es bon, alors attention, il faut quand même être bon. Tu peux toucher tes 200 000.
Ouais. Ouais. Alors après, avec le truc aussi que un, si t'es pas bon, deux, enfin voilà, c'est le. C'est le 15 day notice, hein. C'est-à-dire qu'en 15 jours, t'es dehors et même, voire en 24 heures.
Alors, tout n'est pas rose en Silicon Valley, ouais. C'est sûr. On peut parler, si tu veux, un petit peu de la différence Silicon Valley-France. Les salaires énormes, ça fait rêver, évidemment. Mais, t'as aucune protection derrière, donc t'as pas de chômage.
Ouais.
Quand t'es dans une boîte tech en général avec ces salaires-là, t'as quand même une protection un peu healthcare. Mais ton chômage, tu le gères tout seul. Et le coût de la vie, il est juste hallucinant.
Ouais.
Hallucinant. Et encore plus si tu as des enfants. Donc, pour te donner une idée, n'importe quelle ville en Silicon Valley, de San Francisco jusqu'à tout en bas de la Silicon Valley à San Jose, dans les États-Unis, déjà, il n'y a pas d'école publique avant le CP.
D'accord.
Les maternelles, c'est pour ta pomme.
Ouais.
Et ça te coûte entre 2 et 3 000 dollars par mois par enfant. D'accord?
Faut pas en faire beaucoup.
Voilà. Donc ça, c'est après les charges. Donc on est en Californie. Donc tout le monde dit, en France, on paye des taxes, nanana. Bienvenue en Californie où tu peux facilement atteindre tes 55%. Donc quand tu payes 3 000 ton école, en fait, ça, c'est pris de 5 000 de ton salaire. Donc ça fait déjà 60 000 dollars de moins par enfant. Sur ton salaire de 100 000, tu peux pas avoir d'enfant. Voilà. Donc juste pour info.
Ouais. Quand tu le remets dans cette perspective, ouais.
Voilà. Donc en fait, si tu veux, quelqu'un qui gagne 75 000 en France, il va bien mieux vivre que quelqu'un qui gagne 150 000 ici.
Je comprends.
Et le choix est assez évident. Si j'ai le choix entre l'un ou l'autre, je viens en France à 75 000. Enfin, c'est quand même un gros salaire, hein, 75 000.
Ouais, on est d'accord.
Mais 150 000, c'est aussi un gros salaire, quoi, pour les États-Unis.
Mais donc l'éducation, tu te dis, là, il y a un truc.
Ouais, alors déjà, ce qui se passe, c'est que quand tu reviens un petit peu sur mon parcours, ouais. Moi, j'ai toujours été mauvais à l'école jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me plaise. Et quand ça commençait à me plaire, grosso modo, c'était du pratique, c'était du
pratico-pratique.
Du pratico-pratique. Ok. donc le BTS, c'était beaucoup de pratico-pratique. Epitech, c'était que ça. Et c'est vraiment là où je me suis le plus plu. Et Deuxio, quand j'ai fini l'Epitech et j'ai eu mon premier salaire, qui était énorme, ouais. c'était plus que ce que gagnait ma mère ouais. à la fin de sa carrière. Ouais. Ouais. En fait, ça a totalement changé, entre guillemets, mon niveau social, ou en tout cas, hypothétiquement. Et en fait, je me suis dit, mais on peut faire mieux, quoi. On peut faire mieux pour tous les gens qui fitent pas le moule de l'éducation classique où tu dois t'asseoir des heures à écouter quelqu'un passivement et à recracher bêtement les trucs que tu dois apprendre par cœur. Mmh. Et en plus, ça ne fit pas du tout le monde du travail réel, ou le monde réel, en fait. Même pas le monde du travail, le monde réel. Une éducation où on te dit si tu parles avec ton voisin, c'est triché, ou si tu parles tout court, en fait, Julien, t'es en retenue ouais, encore samedi. Cool, ça n'a aucun sens dans le monde du travail, dans le monde tout court. Aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un que t'as pas le droit de parler à ton collègue, enfin, c'est inimaginable, quoi. C'est inimaginable. Quand tu... ouais. Aujourd'hui, tout le système, il est basé sur la révolution industrielle d'avant.
Ouais.
Qui était grosso modo, on prend les gens de la campagne, on les met dans les villes parce qu'il faut qu'ils aillent travailler à l'usine. Donc, tout le monde est assis, on leur apprend à écouter quelqu'un, à écouter des ordres, t'as pas le droit de parler parce que sinon, tu vas être moins performant sur les machines, hein. Mm-hmm. D'accord? Faut que tu fasses des blagues, etc. Et puis, pour t'habituer à changer de shift, t'as toujours la sonnerie. Mm-hmm. Voilà. Donc, dring, allez, changement de shift. Tu changes de shift, tu changes de classe, tu vas dans la classe d'à côté ou machin, etc. Et en fait, c'est dingue. On apprend aux gens à être des robots dans un monde où on fabrique des robots pour les remplacer. Ça va pas. D'accord? Donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses à changer dans l'éducation. Donc, nous, on s'attaque à un tout petit créneau, avec quelques concepts qui sont quand même généraux, avec le apprendre à apprendre et puis la pratique. Qui est quelque chose quand même qui est beaucoup plus important que d'autres choses.
Et tu parlais de shift. À quel moment toi ça shift dans ta tête en mai 2015 il y a un événement particulier, il y a un truc où tu dis allez ça y est on y va.
Ouais ben en fait c'est si tu veux ça a grossi. On en avait parlé avec un de mes cofondateurs avec qui je faisais beaucoup de projets de side projects qui s'appelle Sylvain. On avait parlé de beaucoup énormément de cette question d'éducation. Moi, ça me tenait à cœur depuis longtemps. Sûrement aussi parce que j'étais mauvais à l'école et que l'école me le rendait bien, entre guillemets. Il y avait ce clash entre moi et l'éducation. Je me disais, mais c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça, quoi. C'est pas possible. Et du coup, en fait, ça, plus le fait... Mais après, il faut trouver un marché, quoi. Et le fait qu'il y ait un réel besoin en informatique... Ouais.
Il y avait un appel d'air du marché, c'est clair.
Voilà, ouais. Exactement. Donc tu maries un peu les deux, donc cette passion un peu pour l'éducation, de vouloir refaire les choses et de faire un petit peu quelque chose qui soit bien pour tout le monde et pas que pour un certain type de personnes. L'université c'est bien pour certaines personnes. L'université c'est pas nul, c'est bien pour certaines personnes. Mais pour d'autres personnes ça marche pas. Donc c'est là où il faut aller de l'avant et faire quelque chose un peu nouveau pour ces personnes-là.
Ouais, puis là où vous avez buzzé aussi, si je me souviens bien, hein, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais c'est que vous disiez OK, viens chez Holberton, c'est gratuit et en fait tu nous paieras sur tes premiers salaires.
Voilà, tout à fait. Donc ça c'est peut-être un peu un biais français où on se dit nous l'éducation doit être accessible à tous, ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis.
Oui.
Aux États-Unis, tout est transactionnel, tout est business. L'éducation en fait partie, c'est un business incroyable. Et aux États-Unis, donc en plus de ces deux facettes dont je viens de vous parler, aux États-Unis, il y a une autre facette qui est les prix d'éducation, qui est une barrière énorme pour énormément de personnes.
Tu t'endettes pour les 10-15 premières années de ta vie pro, quoi.
Et ceux qui acceptent de s'endetter, s'endettent certaines fois jusqu'à la fin de leur vie. Ouais. Donc il y a 1,3 ou 1,6 trillion dollars de dette, quoi. 1600 milliards de dollars de dette étudiante aujourd'hui.
Ouais.
Et ça croît, ça ne s'arrête jamais. Le prix de l'éducation n'a pas arrêté d'augmenter.
Tout le monde dit que c'est à un moment, ça va être un problème majeur pour l'économie américaine d'ailleurs.
Tout à fait, ouais. C'est possible. C'est très possible. mais donc, il y avait cette question d'accès là. Et ce qu'on a fait, en fait, en plus de la qualité, en plus de la scalabilité, on avait une valeur qui était hyper importante, qui était cette accessibilité-là. Ouais. On voulait que tout le monde puisse avoir accès. Donc là, on est une for profit, hein, il faut qu'on fasse de l'argent sinon on meurt.
Bien sûr.
Donc l'idée qu'on a eue, c'était de dire, ok, tu payes rien avant, tu payes rien pendant, mais tu payes une partie de ton salaire une fois que t'as trouvé un travail, et que si t'as trouvé un travail.
Ce qui est pas mal, parce que c'est un deal win-win, hein. Si tu le formes pas bien, il trouvera pas de boulot. Voilà quoi.
Ouais. Exactement. Donc l'idée c'était de réaligner l'incentive de l'université avec l'étudiant. Puisqu'aujourd'hui, c'est tellement un business qu'en fait, il y a beaucoup trop d'universités qui sont dans le business d'enroll maximum de gens possibles parce que eux, ils touchent leur chèque.
Bah oui.
Je parle des États-Unis, c'est très différent pour la France. Là, on parle que des États-Unis.
Mais comment tu finances les premiers? Parce qu'il faut bien,
Et c'est là où, du coup, on a levé un peu d'argent.
Et voilà. OK.
Et donc ça, c'était, alors, pour lever, alors ça, c'est une histoire extraordinaire aussi. Donc moi j'étais à Docker, j'étais un exécutif, ouais. Et du coup j'étais au board, donc je connaissais les investisseurs et puis les gens qui étaient là. Mmh. Et du coup le CEO de l'époque, à l'époque on avait changé de CEO, le CEO s'appelait Ben. Il envoie un mail à tout le monde pour dire Julien s'en va quoi. Et dans la journée je reçois un texto d'un des VC, et il me dit bouge pas, j'arrive. Je dis ok. Donc à l'époque j'étais à San Francisco, il vient de Menlo Park. Il vient avec sa voiture de Menlo Park et il me dit « Tiens Julien, voilà un chèque d'1 million, j'investis chez toi. » Je lui dis « Mais tu veux pas savoir ce que je veux faire ?»« Non, j'investis chez toi, s'il te plaît, prends mon chèque. On ira chercher un 2e million tous les deux, t'inquiète pas. » Je lui dis « Mais moi, je voulais lever que 200 000. »
C'est insane.
Je lui dis « Trust me, you're gonna need it. » Et il me tente, et si tu veux, il m'offre 1 million de dollars pour investir dans la boîte. Et je dis ok.
Incroyable.
Donc cette personne-là, c'est Dan qui travaillait à Trinity Ventures, qui est un super fonds qui avait investi dans Docker.
Bah tu m'étonnes, c'est un super fonds. Si tu files 1 million de dollars, ça comme.
Et donc c'est extraordinaire. Donc il y avait une autre personne, il y avait plusieurs personnes au board de Docker qui étaient investisseurs à Docker. Donc il y avait Jerry Yang aussi, le fondateur de Yahoo.
Yes.
Donc, on appelle Jerry et il me dit Julien, bah oui tiens, voilà un autre chèque. 1,5 million de dollars. Je fais d'accord, ok, bon on va chercher deux. Et puis quand t'as Trinity Ventures avec Dan et puis Jerry Yang pour aller chercher deux, c'est assez facile.
Ouais, hein, ça permet d'ouvrir d'autres portes, ouais, en plus, ouais.
Ouais, donc à la fin, t'as trop d'argent, donc tu es obligé de couper, quoi. Et c'est comme ça qu'on a.
En spécial
qu'on a levé
dédicace
notre
à tous ceux qui galèrent à faire des levées de fonds. À faire des slide decks, tout ce que tu veux.
Tout à fait, ouais. Mais après, si tu veux, c'était. Alors, si tu veux, la galère, on l'a eu avant, parce que moi, j'ai travaillé 3 ans à Docker, et c'était pas facile, hein, ouais. Mais c'est le travail que j'avais fait qui était, entre guillemets, récompensé. Mais ça m'a pas aidé pour le round d'après, hein.
Ouais.
Ça, par contre, c'était horrible, parce que du coup, j'avais pas d'expérience sur un petit round, et il a fallu lever plus d'argent, c'était plus difficile, hein.
Tu m'étonnes.
C'était pas facile, hein. En Syriza, je me suis dit. Ok, comment on fait? Ça va être facile, ils vont me donner des chèques. Non, ça marchait pas comme ça. Ça marchait pas comme ça. Donc, je me suis pris plein de tollés pour la série Z. Énormément de tollés, ouais. En partie à cause de ça, parce que j'avais ce manque d'expérience. Donc, c'était génial.
Ouais, mais t'avais plus peur des avocats, déjà. T'avais plus peur des avocats.
Ah non, plus du tout. Ah non, non. En plus, là, j'avais des avocats pour les bonnes choses.
Ah, exactement. C'était cool, plutôt cool.
En fait, c'est intéressant parce que si tu veux, ta boîte, et même toi, en fait, en tant qu'entrepreneur, tu peux pas savoir si t'es entrepreneur pour de vrai avant d'avoir des problèmes et savoir comment tu réagis. Et ça, je vois la différence entre certaines personnes. Il y a beaucoup de gens que j'essaie de coacher un petit peu ou qui me contactent pour avoir des conseils. Tu vois rapidement, en fait, qui est qui quand il y a des problèmes. Mais c'est même pas vrai que pour l'entrepreneuriat. C'est vrai pour les amis, c'est vrai pour tout le monde. Tu reconnais les gens que quand il y a des problèmes. Que ce soit des problèmes d'argent, des problèmes de business, tout. Là, tu vois vraiment qui sont les gens. C'est hyper intéressant. Et donc cette histoire, tu vois, dans toutes les histoires de mes aventures, j'ai toujours eu des problèmes. Et quand tu parles à n'importe quel entrepreneur, quand on fait les articles, etc., tout est beau, machin, etc. Mais en vrai, c'est comment tu passes d'un problème à un autre, en étant toujours la tête droite, avec le sourire, quoi. Combien de fois t'arrives à te relever? C'est combien de fois t'arrives à te relever plutôt que combien de fois t'arrives à être au top.
Ouais.
C'est ça vraiment.
C'est un bon message. Et j'espère que mes étudiants écoutent cet épisode parce que c'est la clé. C'est la clé. Il y a une partie de résilience.
C'est la clé du succès dans la vie en général. Ouais.
Accepter. De toute façon, tu vas te planter. C'est pas la question de. Enfin, tu vois, tu vas te planter.
Exactement. Okay. Qu'est-ce que tu fais avec cette défaite, ce qui est important. Ouais. C'est pas ce que tu fais avec la victoire. C'est... Enfin, si un petit peu quand même, mais c'est surtout ce que tu fais avec les défaites ou avec les problèmes. Ouais. Et comment tu interprètes ces problèmes. Donc, soit tu les interprètes comme c'est la fin, ou alors tu les interprètes comme ok, comment on... enfin, c'est un super challenge entre guillemets. Bon, c'est chiant, hein, tu dors pas, mais bon. Donc, si tu veux, aujourd'hui, bah, notre entreprise, on en a parlé. J'ai eu des monceaux de lettres d'avocat. Des fois, j'avais des lettres d'huissier de, enfin, 5 par jour, quoi. C'était la folie. 5, 10 des fois. C'était fou. Moi, j'avais des messages sur mon répondeur de CEO qui m'insultaient.
Oh.
J'ai un message de Thread Dev, quoi. C'était la folie. Il me dit, je vais te tuer. Sur mon, non, mais pour de vrai. Sur mon répondeur, quoi. Je sais même pas comment ils avaient trouvé mon numéro de téléphone. Ensuite, j'ai fait les sites de e-commerce. J'ai PayPal qui m'a bloqué, j'ai Google qui m'a bloqué. On faisait tout notre chiffre d'affaires via PayPal au début. Mmh. Et puis comme on faisait la croissance assez rapide, bah on a été flagué comme potentiellement fraude pendant 3 semaines. J'ai pas pu payer mes fournisseurs, j'ai pas pu me payer. C'était la folie. Ils nous disaient ah non, machin ceci cela. C'était incroyable. Il a fallu négocier avec les fournisseurs, etc. Ouais. Enfin je pouvais arrêter le business.
C'est une école
Google
de vie, ça, monsieur. Hein, c'est une école de vie.
Mais Google AdWords, à un moment donné, il nous bloque la boîte, quoi. Ouais. Et on sait pas pourquoi. Il nous dit, ah, c'est fini, de toute façon, vous vendez des choses qui sont interdites. Je dis, mais comment ça, je vends des choses interdites, n'importe quoi. Ouais. Et je les appelle une fois, deux fois, trois fois. À la fin, ils me disent, OK, vous êtes sur blacklist, c'est fini, vous pouvez plus nous appeler. On faisait 100% de notre chiffre d'affaires sur Google. 100%. Du jour au lendemain, on est tombé à zéro.
Ouais.
Plus rien, c'est fini, quoi.
Ça, c'est les extensions de cheveux, ça, ils aiment pas.
Mais c'était dingue. C'est-à-dire que Google peut tuer ta boîte. C'était incroyable. Ouais. Et la façon dont on a fait, enfin, on a essayé plein de choses. Et en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est que j'ai appelé la France, Google France, en leur disant, ah, je suis désolé, je parle pas bien anglais, je pense qu'on s'est mal compris avec Google AdWords. Fermez, s'il vous plaît. Et ils nous disent, ah ouais, on voit rien, donc on va vous passer Google Irlande. Google Irlande nous dit, ah, bah oui, bah, ok, d'accord. Et je pense que ça a pris 3 semaines de stress absolu parce que tu viens de bouger en Floride, ton business, d'un coup, il fait zéro, et puis t'as pas d'argent, on avait rien de côté. Hein. Donc c'était le gamble total, quoi. Et c'était bah tu retournes chez toi, tu retournes chez tes parents, quoi, si ça marchait pas. Et puis c'est pareil, Docker, on a eu des merdes pas possibles. Holberton, pareil, des merdes pas possibles. On a été en procès avec l'État de Californie, oh, monsieur. Attention,
pourquoi quand c'est la classe lettre, parce que quand tu reçois à cette époque-là, voilà, ça devait être Schwarzenegger en plus le.
Non. Non, c'était il y a très longtemps, Schwarzenegger. Mais quand j'ai reçu la lettre, en fait, si tu veux, toutes ces petites étapes, bon, c'est un peu stressant quand même, je vais pas dire que voilà, il n'y a pas de problème, j'en vais bien. Uh-huh. Mais en fait, moi, j'étais prêt à partir au combat avec l'État de Californie, il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi.
Ils vous attaquaient pourquoi, l'État de Californie?
Alors, ils nous attaquaient, attends, ils nous ont mis pour, c'était marqué fraude dans la lettre.
D'accord.
Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Normal. Et en fait, l'État de Californie a décidé du jour au lendemain que l'Income Share Agreement, le contrat qu'on avait avec les étudiants,
oui.
En fait, maintenant, c'était interdit en Californie.
Ah.
Voilà. Ils ont décidé comme ça. Et ils nous ont dit, non, on vous a jamais donné l'autorisation. Je suis, mais si, regardez, il y a la lettre là. Ah, désolé, on s'est trompé. Mais avant qu'on... Attends, parce que c'était en plein Covid.
Oui.
Donc alors, ils nous mettent ça. Donc il y a marqué fraude sur le site de l'État de Californie, quand même. Holberton.
Ouais, c'est pas bon. Ça
donc là, les étudiants, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, machin, révolution. Nos partenaires disent, mais qu'est-ce que c'est? Je venais de faire une levée de fonds de 20 millions.
Oui.
Les mecs qui venaient d'arriver, disent, mais Julien, c'est un fraudeur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je dis, mais c'était la merde, pas possible. Ouais, nos investisseurs, ils sont extraordinaires. Ils nous ont fait confiance jusqu'au bout. Et franchement, j'ai vraiment de la chance d'avoir des super investisseurs. Mais, sur le coup, tu te dis, mais waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ouais. Et donc, Covid. Donc, ils nous disent, bah, envoyez-nous les documents. À envoyer les documents. Ah bah je suis désolé mais je sais pas ouvrir le zip depuis chez moi parce que je suis pas au bureau. On a dû attendre que les gens reviennent dans leur bureau pour ouvrir le zip, pour pouvoir downloader les documents, pour pouvoir aller. Mais c'était n'importe quoi pendant, ça durait plus d'un an. Et au final on a été clair parce qu'il y avait rien évidemment. Ils nous avaient mis tous les trucs possibles imaginables. On avait vraiment l'impression que Holberton School c'était une fraude incroyable. Et donc à la fin on se dit
le truc prend. C'est-à-dire que vous avez les étudiants ils commencent à sortir, etc. Et justement, tu disais, moi ce que j'ai vu, en tout cas cru comprendre, c'est que cette fameuse levée, alors qui a apparemment été compliquée, des 20 millions, derrière...
Non, celle-ci, elle était super facile. J'avais 40 millions sur la table, j'ai dû en laisser 20 sur le côté. C'est la série A qui était compliquée.
Okay.
La série B, c'était très facile.
sais que c'est un peu énervant, hein, ton histoire là, mais bon.
Non, mais attends, parce que, alors, comment remettre les choses? Attends, j'aimerais bien qu'on parle du contexte, quand même. Parce que c'est facile, ça veut dire quoi? D'accord? Si tu regardes mon fichier, donc je suis hyper méthodique. Pour faire les levées de fonds, faut être hyper méthodique. Donc, faut mettre les gens avec qui t'as parlé, tout l'historique, etc. J'ai 300 lignes. J'ai parlé avec 300 fonds, hein.
Ouais. D'accord.
D'accord. Donc, c'était facile.
Pour au final en retenir 2, 3
Des nouveaux,
Ah oui, parce qu'il y a ceux qui ont réinvesti,
Ouais, tous les autres ont réinvesti. D'accord. Donc, il y avait pas forcément énormément de place, mais, il y avait que 3 nouveaux.
Ouais.
Mais moi, sur les 300, j'ai dû me prendre, honnêtement, 200, 280 noms, quoi.
Ouais.
280, ton truc, c'est nul. Tu vois? Donc, et ça, quand tu fais une levée de fonds, c'est dur psychologiquement parce que tout le monde te dit que c'est nul. Donc, si tu crois pas à ton truc, à un moment donné.
Et si tu crois pas à fond, à mort,
Exactement. Et tu vas chercher les fonds partout, quoi.
Ouais.
Si t'es en France, t'as tendance à aller chercher des fonds en France. Y a rien de mal à ça. Y a des VC qui sont très bien en France. Mais si ça marche pas en France, tu vas chercher ailleurs, quoi. Y en a plein en Europe, y en a aux États-Unis, tu vas en Angleterre. Tu peux aller chercher des fonds en Afrique, il y a de l'argent partout.
Donc, tu me réponds.
Quand je dis que c'était facile, on a mis 6 mois sur 6, et aux 6 mois, j'ai eu mes 40 millions là sur les 3 dernières semaines.
Ouais.
Avant, j'avais rien.
Ouais, petit coup de pression quoi.
Mais si tu veux lever 40 millions en 6 mois entre guillemets, c'est facile.
Ouais.
Voilà.
D'accord.
C'était facile parce qu'on avait 40 millions à la fin.
T'es pas obligé de me répondre, mais dans ton capital, t'as des investisseurs français?
Oui.
Ouais, d'accord.
Alors moi, j'ai toujours voulu avoir un petit peu d'investisseurs français. Si j'avais pu, j'en aurais peut-être eu un peu plus. Pour plein de raisons. Mais une des raisons que je trouve importante, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tu joues l'avenir des pays et des sociétés de ces pays-là sur la quantité de ressources importantes que tu produis.
Ouais.
Avant, ça pouvait être le pétrole. Avant, c'était peut-être l'argent. Maintenant, la problématique qu'on a, c'est la formation de talent en ingénieur informatique. Et en fait, qui détient la sauce secrète, entre guillemets, peut avoir un avantage colossal. Ouais. Sur les 30 prochaines années. Parce que si ton pays, il arrive à fournir assez d'ingénieurs informaticiens, voire plus, je parle pas de n'importe quel niveau, mais un niveau assez élevé, bah, tu gagnes, en fait.
Ouais.
Même s'il y en a plein qui s'en vont. En fait, on s'en fiche. Et quelque part, c'est bien de partir aussi, parce que, du coup, t'as des relais un peu partout.
Tu SM, ouais. Tu crées des diasporas.
Exactement. Mais tout à fait. Donc, c'est génial, en fait, qu'il y ait des talents qui sortent de la France. C'est extrêmement important pour la France parce que sinon, on n'a pas tous ces contacts. Moi, je suis aux États-Unis. J'aide, mais constamment des gens qui viennent me voir, qui ont besoin, de compréhension, de la Silicon Valley en général, qui ont besoin d'intro à des VC, qui ont besoin d'intro à des entrepreneurs, d'intro à des fournisseurs. Mais constamment, je n'arrête pas. Et des gens comme moi, il y en a plein. Aux États-Unis, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, il y en a plein partout. C'est hyper important. Mais grosso modo, pour arrêter de digresser, c'est en fait, si tu veux, c'est un outil stratégique majeur qu'on est en train de produire. Et moi, ça me faisait plaisir que potentiellement, ce soit un petit peu français. Voilà. Donc moi, j'ai des investisseurs français, j'ai des investisseurs des États-Unis. J'ai des investisseurs qui viennent d'Afrique, j'ai des investisseurs qui viennent de l'Amérique latine.
Okay.
Pourquoi aussi on a fait ce choix-là d'avoir des gens d'un peu partout? Parce que notre échiquier, c'est la planète entière.
Ouais.
Donc, il fallait des gens qui soient un peu spécialisés un peu partout.
Ça se voit dans les 33 écoles que vous avez ouvertes. Ouvertes, oui.
Ouais.
C'est-à-dire qu'elles sont un peu... Il y en a un peu partout.
Il y en a partout.
Alors, doit y en avoir 3 en France aujourd'hui, c'est ça? Ou 2?
Il y en a 3 en France aujourd'hui, ouais.
Donc il y a dans le Nord, ça c'était les premiers, tout premier. Il y a Paris.
Tout à fait.
Et le troisième c'est.
Je ne sais plus.
Ouais, mais t'es trop un CEO international, toi, c'est pour ça. je checkerai, je mettrai un lien vers Holberton.fr, etc. Vous verrez ça. Justement, comment toi t'as envisagé ce développement? Ça s'est fait par opportunité, parce que il y a des gens qui sont venus à vous, ou tu vois, typiquement, vous avez créé une équipe en France. Ben moi, j'ai causé avec des gens en France, des Français, des Frenchies en France.
Ouais, donc on a toujours eu, enfin toujours eu. Non, c'est pas vrai. On a eu surtout à partir du Covid, on a dit ok, on arrête les locaux, donc on peut avoir des gens d'un peu partout et on avait des gens pareil, des employés qui sont un peu partout. Ouais. Moi, ce que je voulais surtout, c'est aussi créer une équipe qui était sur la time zone un petit peu IMEA, parce que avec 9 heures de décalage, c'est très compliqué en fait.
IMEA, Europe, Middle East, Africa.
Tout à fait. Ouais. Europe, Middle East et Afrique. Donc il fallait avoir ces deux time zones. On est très peu en Asie, donc on n'a pas créé une troisième équipe. Ça aurait coûté trop cher, ça n'aurait pas eu de sens. Mais il fallait avoir ces deux pôles-là. Donc on avait un petit peu en Californie et puis un peu plus en France. Le France qui est un marché que je connais bien. Puis j'étais content de créer des emplois en France. Mais si tu veux, pour revenir à l'histoire initiale que j'ai commencé il y a un peu une heure sur Holberton, on a créé la première école, mais ça a toujours été l'idée, ça a toujours été de créer quelque chose qu'on puisse partager avec le plus grand nombre.
Ouais, c'est le fameux scaler. Je me suis noté revenir sur scaler.
Tout à fait. Donc avec cette pédagogie là, avec ces outils là, qu'on propose maintenant en marque blanche.
Ouais.
En fait, on a 33 écoles qui sont avec notre marque, mais 95% de nos étudiants sont via des acteurs qui travaillent en marque blanche, qui ne sont pas labellisés Holberton. Okay. Donc en fait, tout le monde connaît Holberton School parce que c'est la marque, c'est très bien, je suis très fier. C'est une école extraordinaire.
C'est ton flagship.
Tout à fait. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, notre business, il est 95% ailleurs, quoi.
C'est incroyable.
Donc c'est tous ces outils-là qu'on a voulu, et c'est pour ça qu'on a créé Holberton avec cette idée que dans tous les cas, ça allait scaler partout dans le monde.
Ouais. Attends, je suis en train de faire un calcul, parce que 33, c'est 5%. donc on va faire 33.
Non, ça marche pas comme ça, parce que t'as des écoles qui sont en ligne, t'as des écoles qui sont physiques, t'as des universités qui utilisent nos produits pour complémenter leurs cours. Donc c'est pas forcément, tu peux pas faire le calcul de cette manière-là. Mais par contre, pour revenir sur Holberton School, je pense que on va en faire le plus gros réseau d'écoles du monde. Pas que d'écoles d'informatique, mais d'écoles du monde.
Et puis,
je pense que d'ici 5 ans, on sera les plus gros.
Tu vois, on évoquait 42, il y en a d'autres d'ailleurs, mais qui vont sur ce modèle-là. J'aurais tendance à dire aussi que comme vous venez de la Silicon Valley, enfin, il y a, tu vois, on parle de street cred, c'est-à-dire que vous êtes hyper crédible. C'est vrai. On se dit merde, ils viennent de là, quoi. Ils viennent de là, et je pense que ça aide aussi sur les logiques de développement international.
Ouais, je pense que ça aide aussi, ouais. Et ce qui fait en sorte que en fait ces deux écoles-là en fait grandissent en même temps, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes. On n'a pas du tout en fait les mêmes approches. Donc aujourd'hui, tout le monde te dit ah bah oui, c'est du peer learning, donc c'est la même chose, parce qu'en fait il y a deux écoles qui font ça, trois écoles, Epitech en fait aussi beaucoup. Et donc en fait ces trois écoles, c'est les mêmes. Mais c'est comme si tu disais en fait que Stanford, c'est la même chose que l'université paumée au milieu du Midwest, parce que ils ont des amphis et puis des profs. Ouais. En fait, c'est pas du tout les mêmes écoles. Mais comme aujourd'hui c'est quelque chose de très nouveau, on se dit bon bah 42, c'est la même chose qu'Holberton, c'est la même chose qu'Epitech, grosso modo c'est la même chose. En fait, pas du tout. Donc, pour te donner un exemple, par exemple, la pédagogie par projet qu'on partage dans les trois écoles, elle n'est pas du tout exécutée de la même manière. Donc, par exemple, à 42, pour chaque projet, tu as une vidéo qui t'explique le concept du jour dont tu vas avoir besoin pour faire le projet, avec des petits exemples qui vont t'aider à démarrer le projet. Très bien, c'est une façon d'approcher. Nous, on n'a pas de cours du tout. Nous, on n'est que sur le apprendre à apprendre. On ne crée pas de cours. On crée des projets qui sont automatiquement reviewed, mais on ne crée pas de cours, on t'apprend à apprendre. Donc tu vois, juste ça en fait, ça comprends. Fait que les pédagogies sont extrêmement différentes. Et d'un autre côté, de côté business, en fait, on est hyper différencié avec 42, parce que 42, c'est une école qui doit être gratuite.
Oui.
Donc ça veut dire que les partenaires qui lancent ces écoles-là, pour l'école 42, donne l'argent constamment pour que ça tourne.
Et puis ça coûte cher.
C'est des millions.
Pour avoir regardé le sujet, parce que
c'est des millions par école.
C'est très très cher.
Voilà. Et nous, on attire des gens qui ont besoin de faire de l'argent. parce que sinon ils meurent.
Ouais.
Donc en fait, on n'attire pas les mêmes, forcément les mêmes étudiants, et on n'a pas forcément non plus les mêmes investisseurs entre guillemets pour chaque école. Et en fait, on n'est pas du tout concurrent, enfin quasiment pas.
Ouais.
Évidemment un petit peu.
Non,
bah, quasiment pas.
Ouais, oui et non. T'as raison. C'est des philosophies différentes, c'est des philosophies de business différentes. Rien que ça, ça fait que on parle de choses complètement différentes.
Mais ce qui est sûr, c'est que cette idée de l'éducation par projet dans laquelle nous on croit, les trois écoles, hein, Epitech, 42 et Holberton School.
Ouais.
En fait, pour moi, c'est le futur. Parce que, mais ça peut changer drastiquement l'éducation pour un paquet de jeunes. Il y a des gens qui travaillent mieux avec la façon classique. Il y a beaucoup de gens qui travailleraient beaucoup mieux et qui poursuivraient leurs études beaucoup plus longtemps et qui accéderaient à des compétences, des niveaux de compétences beaucoup plus hauts si jamais on leur apportait cette façon de faire.
Le fait
comme aujourd'hui, le marché, grosso modo, il est vide. C'est un blue ocean pour le project-based learning. C'est pour ça qu'on a la capacité, les trois écoles ont la capacité d'être des énormes à l'international.
Je comprends aussi pourquoi, parce que enfin l'informatique, on va dire, c'est très déterministe, c'est tu peux le cadrer, etc. Tu penses que ces méthodes-là, avec ces outils-là, tu peux le reproduire sur d'autres types de savoir?
Je pense que chaque type de savoir aura, et chaque type aussi d'âge, a besoin de focus un peu différent et une analyse forcément différente. Maintenant, la façon de faire les choses basées sur le projet, sur la pratique, je pense que ça, c'est universel. On a des écoles au Canada qui font du droit. Rien à voir avec l'informatique.
Ouais.
Et en fait, ce qu'ils font, c'est que les étudiants, ils apprennent chez eux et après, ils font tous des projets ensemble en amphi avec le prof.
Ok.
Et ces étudiants-là, dans les concours inter-écoles d'avocats, c'est eux qui gagnent tout le temps.
Mmh. Okay.
Parce qu'ils font la pratique beaucoup plus que d'autres, en fait.
Mmh. Ouais.
Et en fait, ça, on pourrait le répliquer sur plein de choses. Le développement de l'esprit critique aussi, c'est quelque chose qui est hyper important, qui devrait être un peu plus prononcé, je pense, dans les petites classes. Le fait que le monde est changé, il faut qu'on arrive à changer l'éducation. Quand tu regardes le collège et le lycée, les étudiants, ils travaillent quand même énormément d'heures.
Oui.
Et on pourrait imaginer qu'il y ait un petit peu moins de focus sur, je sais pas, peut-être un petit peu les maths avancées. Tu vois, les intégrales, moi, j'en ai jamais eu besoin. Je sais pas
que c'est
pas
bien. Ah, bah, toi non plus. Ah, bah, d'accord.
Mais tu vois, juste avec quelque chose d'un peu plus concret, ou reformuler certains cours, tu vois, par exemple, n'importe quelle matière. Donc, je sais pas, tu regardes l'économie. Donc là, on a des petits cours d'éco, je me souviens, en terminale, je crois, ou même en première et terminale. Au lieu d'avoir un cours de trucs par cœur, ah oui, économie, c'est ça, tu dis non, ok, faites un projet, et puis parlez-moi de ce sujet-là.
Mmh.
Et puis après, bah, ils font ça par projet, par deux, par trois. Donc déjà, t'apprends à travailler en groupe. T'as toujours celui qui en fait 80% et puis les deux autres qui en font 20% ou l'inverse. Ouais. Ouais, mais bon, la vie, c'est injuste. Ben voilà, t'apprends ça déjà, c'est bien. Mais ça se passe comme ça partout, en fait. Hein.
C'est
donc, c'est soit tu vois. Donc, à un moment donné, il faut accepter les choses telles qu'elles sont, et puis après, tu agis en fonction de ça.
Ouais.
Ça, c'est encore, j'ai pas envie de digresser encore, mais. Donc, tu fais ce projet-là, donc tu le montres devant tout le monde. Et puis, le prof, bon, en général, il sait quand même plus de choses que l'étudiant, en général.
Mmh.
Et il est là, justement, pour coacher les choses. Donc, ah, mais pourquoi tu penses que c'est ça, en fait? Ah, bah oui, bah, j'ai lu sur Wikipédia. Ok. Donc, bah, c'est pas super, t'es en sixième, tu dis Wikipédia, comme beaucoup de gens, hein, même les adultes, hein, c'est une référence absolue, si c'est marqué sur Wikipédia, c'est vrai.
Mm-hmm.
Ah ben, on va faire une petite pratique, on va changer Wikipédia ensemble, hop, voilà. Alors maintenant, est-ce que tu penses vraiment que ton exposé, il est 100% correct? Ah merde. Donc, peut-être la prochaine fois, tu check avec une autre source pour recouper les informations.
Ça me fait penser à un truc, on parlait de différenciation. Typiquement, dans mon souvenir, chez Holberton, tu peux avoir des coachs versus d'autres approches où tu es quand même complètement livré à toi-même, où il n'y a pas de prof du tout, il n'y a rien du tout, tout est full online. Là, par exemple, je sais que
non, alors,
vous faites un truc qui est du...
Y a... Il y a des software engineers sur tous les campus.
Ouais, c'est ça. Et avec un truc que moi j'aurais bien aimé voir pour le coup, c'était un cours de codage en ligne où le gars, enfin le prof, il est online avec les élèves qui suivent et il est en train de coder le truc.
Tout à fait. Ouais.
Donc tu vois, on fait des.
Ouais. Bah en fait, à la fin des projets, quand ils sont corrigés, qu'il y a déjà eu les notes.
Ouais.
Là, de temps en temps, pas tout le temps, parce qu'il y en a des centaines de projets, on fait ce qu'on appelle un live coding session, et puis on le fait avec les étudiants. Ouais, et j'en ai fait plein, et c'est franchement formidable en plus.
Ouais, et puis ça crée de l'interaction. Avec un autre truc, attends, est-ce que c'est... Ouais. Je veux pas dire de bêtises, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc où tous les matins, vous leur demandez de prendre la parole?
Tous les jours. Tous les jours, en général, donc les campus choisissent, mais en général, c'est à midi.
D'accord. Mais ouais. Attends, parce que moi je suis aussi là pour dire tout le bien que je pense de ça, mais c'est hyper important et d'autant plus sur ces profils-là d'avoir des gens qui sont en capacité de prendre la parole. Tu vois, on a toujours l'image du geek avec ses grosses lunettes enfermées ou de l'ingénieur informatique en sandales et avec sa barbe. Mais si t'as un gars qui a pris l'habitude de prendre la parole en public, qui sait donc expliquer et expliquer des idées un peu complexes, bah ça change tout.
Tout à fait. Donc ça, c'est la partie soft skills sur laquelle on travaille aussi beaucoup à Holberton et qui fait quelque part, c'est quelque chose de très différent aussi de ce que tu vas retrouver dans d'autres écoles comme Epitech ou 42, où on travaille beaucoup sur l'expression à la fois écrite et orale.
Tu vois,
c'est pas 80% du programme, évidemment, mais on fait en sorte que les gens, en fait, ils aient parlé 1, 2, 3, 4 fois durant l'année devant tout le monde sur un sujet de leur choix. Et ça dure pas longtemps, ça dure 5 minutes, mais en fait, il y a une énorme différence entre quelqu'un qui a jamais pris la parole et une personne qui l'a pris 5 fois. Ouais. Et ça leur donne confiance, et cette aisance en fait oratoire, elle est hyper importante parce que dans le monde du travail, il faut savoir faire, mais aussi faire savoir.
C'est ce que tu disais sur ton expérience chez Wengo, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as pu parler avec tout le monde parce que tu avais ces compétences techniques, mais en fait, tu avais aussi la capacité à communiquer. Tu vois, t'étais un communicant, t'étais le mouton à 5 pattes, quoi.
Alors chez Wengo, je sais pas si j'étais très bon communicant encore. Ah. Je me suis amélioré.
C'est un long chemin. Ouais.
Mais ce qui est sûr, c'est que parler avec des ingénieurs informaticiens, ça je savais faire.
Eh ben ouais. Ben oui, mais c'est pas
un bon geek avec des lunettes. Maintenant, je porte des lentilles, mais moi aussi j'avais mes lunettes.
Bon, je merci beaucoup Julien du temps que tu nous consacres. Je vais pas t'en prendre plus parce qu'en plus toi ton vendredi là, il est en train de commencer hein. Le mien il est en train de finir mais le tien il est en train de commencer. Donc voilà, t'as pas fini ta semaine.
Non mais moi j'ai commencé à 7h du matin.
Hein. Ouais, mais t'as un truc tu t'es mis en mode morning routine et trucs comme ça, développement personnel ou pas?
Développement personnel, ouais, c'est-à-dire
je sais pas, tu vois, à la californienne, quoi. Tu te fais un morning routine, non?
Non, pas du tout. Ouais. Non, là, c'est le côté californien de ce côté-là, ça me correspond pas du tout. Moi, je suis toujours dans... là, j'ai changé, je fais plus de MMA, maintenant, je fais du jiu-jitsu brésilien. Et ça me permet de me défouler, ça me fait du bien. À part ça, moi, j'ai deux enfants, donc ça me prend aussi beaucoup de temps.
Ouais, ça calme ça tout de suite.
Sinon, je travaille énormément. Hein. Ouais. On travaille beaucoup.
Justement, tiens, pour les wannabe entrepreneurs, un Julien, ça travaille combien d'heures par semaine?
Alors, je vais te donner une réponse, mais je vais quand même commenter parce que moi, je dois travailler quasiment tous les jours. Mmh. La semaine, au moins, je pense, 10 heures.
Oui.
Et le week-end, je dois travailler au minimum 2 heures par jour.
D'accord.
Voilà.
Voilà.
Maintenant, en fait, chaque contexte est différent. Je travaillais beaucoup plus avant et j'espère travailler moins plus tard. Pourquoi ? Parce que, en fait, si tu veux, moi, ça fait 7 ans quand même que je fais Holberton. Ouais. Au début, de toute façon, t'as pas le choix, sinon ta société meurt. Il faut que tu sois l'équivalent de 10 hommes, parce que sinon, ou 10 femmes,
claire.
Parce que sinon, claire. Ça marche pas. C'est toi qui portes toute la boîte, jusqu'à ce que t'aies au moins minimum 10 salariés. Aujourd'hui, on est 11, donc ça tombe bien, tu vois.
Mazel tov.
Mais en fait, si tu veux, le sprint et le travail 12 heures par jour toute la semaine, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas faire ça toute ta vie. Ouais. Déjà, à un moment donné, tu vas cramer. Mm. Et c'est cette histoire de cramer, ça arrive à plein d'entrepreneurs. Beaucoup plus que ce qu'on entend parler, hein. C'est hyper fréquent. Et deux, en fait, à un moment donné, il faut aussi savoir pourquoi tu travailles. Mm. Et ça, c'est bon, ça vient aussi un petit peu avec l'expérience et la maturité, mais moi, j'ai 41 ans. Si je continue à faire 12 heures par jour, je vois plus mes enfants, je vois plus ma femme, je fais plus rien de ma vie et je suis un robot. Et si tu veux, ça va, parce qu'à un moment donné, il faut que tu sacrifies quelque chose. T'es obligé de sacrifier un petit peu de ta vie et de ton temps quand tu montes une boîte, t'auras pas le choix. Dans 95% des cas, il y a des gens qui sont un peu chanceux, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Si tu fais ça toute ta vie, ça a aucun sens. Donc il faut qu'à un moment donné t'aies du sens et il faut te dire que à un moment donné il y aura toujours une excuse pour travailler 2 heures de plus, toujours. Mais à un moment donné il faut t'arrêter.
Ouais. Mais voilà.
Ça c'est pour ceux qui travaillent trop. Pour ceux qui travaillent pas et qui pensent que je vais monter une entreprise parce que comme ça je pourrais faire ce que je veux, je vais avoir des journées flexibles. Non.
Toujours est-il qu'Holberton reste une des fast companies à suivre. Alors passage obligé. Les 7 dernières questions, Julien. Avant les 7 dernières questions, si on veut te contacter, c'est quoi le mieux ? LinkedIn ?
C'est compliqué parce que j'ai plein de messages sur LinkedIn. Mais LinkedIn avec un message qui a du sens, en général, ça marche.
Okay.
Sinon, j'ai Twitter et sinon, j'ai mon mail. julien@holberton.us.
Voilà. Si vous avez tenu 1h30, vous avez son adresse mail. Exactement, c'est la récompense. Non, mais très sérieux, je mets jamais ça dans la description de l'épisode ou quoi que ce soit. C'est comme ça, c'est surprise pour ceux qui écoutent. Alors, dis-nous, quel est ton mot préféré?
Happiness? Bonheur?
Ouais, bonheur. Ok, c'est joli, c'est mignon. C'est un peu Miss France, mais c'est beau. Je prends. Le mot que tu détestes?
Pas possible. Impossible.
Ouais. Un grand truc d'entrepreneur, ça. Ouais.
Ah, mais tout est possible, en fait.
Alors, je peux pas te laisser partir sans une phrase de Xavier Dolan. Je la répète à mes étudiants et moi, j'y crois à fond. Il a reçu un prix à Cannes. Alors, désolé pour les auditeurs de la colle qui, là aussi, les réécoutent pour la 10e fois, mais bon. Il a eu cette phrase. Il venait d'avoir 19 ans ou un truc comme ça. Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Eh ben, moi, j'en suis également persuadé.
100%.
Désolé pour cette digression. Le son ou le bruit que tu aimes?
Le bruit de l'eau qui coule, j'aime bien.
Mm-hmm. Ok. Le son ou le bruit que tu détestes?
La craie sur le tableau.
Ouais, puis en plus, comme l'école, c'était pas ton kiff premier, on va dire. C'est dans le thème. Ton juron, gros mot ou blasphème favori? Dans la langue que tu veux.
Fuck.
Ouais, ok. C'est ton côté américain, ça, voilà. Okay.
Assez classique. Hein.
C'est classique. La citation que tu aurais aimé avoir prononcée?
Ah, celle que tu viens de donner, j'aurais bien aimé l'avoir prononcée.
Oh putain, c'est trop facile ça, jeune homme. Ok, je prends. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire?
C'est une bonne question. Peut-être quelque chose comme « j'ai merdé à laisser toutes les maladies et toutes les misères du monde s'accomplir ».
Ouais. C'est ça, qu'il s'excuserait auprès de toi, quoi.
Et puis, il changerait du coup.
D'accord.
Okay. C'est pas une excuse en fait, c'est plutôt l'action qui irait derrière.
Mmh, ok. Alors pour tous ceux qui se poseraient la question et qui seraient pas des aficionados de la colle, toutes ces questions viennent du questionnaire que Bernard Pivot posait à la fin d'apostrophe à tous ses invités. Voilà. Encore un grand merci, Julien, pour ce temps. Je trouve le projet génial. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Holberton et à Julien peut-être en particulier?
Écoute, à Holberton, ce qu'on peut souhaiter, c'est que on continue de changer de plus en plus de vies dans le monde. Mmh. Aujourd'hui, on est bien parti. On a rien que cette année, on a fait 60 000 étudiants. Et moi, mon rêve, c'est de faire entre allez 1 et 5 millions d'ici 2030. Si on arrive à faire ça, je serais très heureux.
D'accord.
Et pour moi, et ben écoute, que mes enfants, ma femme et moi-même, on reste en bonne santé, qu'on soit heureux de se lever le matin pour faire des choses extraordinaires.
Ok. Eh ben écoute, on se laisse là-dessus. Un grand merci, Julien. Si je passe par San Francisco, je te passe un coup de fil.
Et, avec plaisir.
Et à très vite. Bye bye.
Bye.
Bravo, vous avez tenu jusque-là. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux, allez mettre 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous à notre newsletter. Et dans tous les cas, à très bientôt pour un prochain épisode de La Colle. Et n'oubliez pas, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais.